sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va signer. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis, de 19h à 20h30. Reprise un peu spéciale, mais tellement agréable. Autour de la table, nous avons Jules. Salut Jules.
Salut.
Salut. Nous avons Greg.
Salut tout le monde.
Nous avons Hassan.
Salut.
Nous avons Charlotte.
Salut.
Nous avons Alex.
Salut.
Nous avons Arthur.
Salut.
Nous avons, G. Et nous avons Serge au vocal. Et Sylvia qui vous salue.
Ouais, et un autre Arthur qui va arriver. Et donc pour rappel.
Ouais, mais je le vois pas, donc moi je suis bête et disciplinée. Hein, il est pas. Et Arthur qui arrive.
Salut. Voilà.
Pour nous appeler pendant l'émission, c'est au 01 40 05 06 01. Au 10 01 40 05.
Non, le numéro, là, en ce moment, c'est un numéro qui est provisoire. C'est le 01 42 06 75 19. 01 42 06 75 19.
Ouais, et pour le portable, c'est au 07 52 40 22 48. Et du coup, bon, voilà, désolé pour le début un peu galère. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur la réforme de la justice des mineurs. Sur là, un gros truc qui est passé un peu discrètement, mais une nouvelle réforme encore plus sécuritaire, quoi, et qui va s'enchaîner avec la nouvelle réforme de la justice qui est aussi en train de faire Super Dupont et dont on reparlera aussi. On va revenir aussi sur le procès qui se passait aujourd'hui, qui se passe en ce moment à Meaux, où il y a 8 prisonniers du centre de rétention de Ménilamlo qui sont poursuivis. Ils sont accusés d'avoir mis le feu à deux bâtiments, d'avoir rendu 44 places inutilisables. Et depuis, ils sont enfermés à Villepinte et à Mauchoconin. Et donc là, aujourd'hui, c'était leur procès. On va revenir aussi sur les un an de la révolte, des débuts de révolte en Italie. Il y a un peu plus d'un an, au moment où les parloirs étaient fermés massivement, il y a eu toute une série de révoltes dans pas mal de tôles en Italie, avec beaucoup d'évasion, beaucoup de tôles qui brûlent. Et ça avait eu beaucoup de conséquences un peu plus tard en mars, quand il y a eu le confinement en France, parce que l'administration pénitentiaire, elle s'attendait à des révoltes, et du coup, elle a été hyper vénère dès le début, quoi. Et du coup, on va commencer, parce qu'on a quelqu'un qui est venu pour ça, on va commencer par parler de la réforme de la justice des mineurs. Et juste avant, peut-être pour rappel, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris, l'envolée-fpp. Et on est présent sur tout un tas de réseaux sociaux, etc., qu'on va sûrement citer pendant l'émission. Et donc, on voulait commencer donc, sur la réforme.
C'est ça. Donc ça fait un moment qu'on voulait vous en parler. C'est un gros dossier qui est là depuis un moment. C'est Belloubet, en novembre 2018, qui a commencé à en parler, en disant voilà, faut réformer, parce qu'on a une ordonnance de 45 qui est là depuis pas mal de temps. On l'a transformée une trentaine ou une quarantaine de fois. Et elle serait devenue très compliquée, illisible, trop lente, tout ça. Tout en disant à côté que les jeunes sont de plus en plus violents, qu'il faut changer tout ça. Ce nouveau code, donc, il a été promulgué là fin février. Il arrive, donc il sera effectif à partir de septembre prochain. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils veulent changer, qu'est-ce qu'ils ne changent pas. Donc comme d'habitude, comme la plupart des réformes qu'ils font, ils nous disent que c'est trop compliqué, qu'il faut l'aménager mieux que ça. Donc on l'a déjà vu avec les lois de travail, avec les différents trucs qui sont passés, ce que ça veut dire pour eux. Et donc jusqu'à maintenant... Avec ce nouveau code, donc c'est censé codifier toutes ces choses-là. Avant, les juges, ils faisaient un peu dans chaque tribunal à leur sauce, apparemment. Et maintenant, ils veulent le rendre plus lisible. Alors, il y a pas mal de points qu'on va essayer de voir ensemble. Ce que c'est que les lieux où on va enfermer les jeunes, ce que ça veut dire pour eux, ce que ça veut dire pour leurs proches et pour tout le monde.
Ouais, peut-être juste avant pour commencer, quand le gouvernement il parle de simplification, ça veut toujours dire moins de droits pour nous. Donc c'était le cas là quand tu parlais de la loi travail. En fait, ça voulait dire faciliter les licenciements, empêcher des actions collectives, etc. dans des boîtes. Quand là, il parle de création d'un code de pénal des mineurs au nom de la simplification, en fait, c'est dire maintenant tout va être plus répressif. Et même si là, les changements qui sont annoncés, ils ne vont pas être d'ampleur hyper vénère, même si ça va dans le chemin de la répression, ça ouvre la voie dans les prochaines années à toujours plus de réformes et toujours plus de répression sur les types, quoi. C'est ça que ça veut dire, en fait, quand il parle de simplification dans le gouvernement.
C'est ça.
Ouais, et du coup, en fait, là, ce que ça vient changer, parce que c'était ça dont on voulait parler, c'est. On parle de l'ordonnance 45. C'est du coup le cadre juridique sur lequel ils se basaient pour réprimer les petits et donc les gens qui sont mineurs depuis 45. En fait, c'est un truc qui a été modifié une cinquantaine de fois, si je dis pas de conneries. L'esprit de départ. C'est de dire officiellement, Craré, on va équilibrer éducatif et répressif. En fait, éducatif et répressif, dans la manière dont c'est pensé par l'État à l'époque, c'est une continuité, quoi. Il y a le répressif pour les gens qui n'arrivent pas à cadrer, et il y a l'éducatif pour les gens qui ont un peu quitté les cadres, mais qui vont pouvoir essayer de faire revenir dans les cadres, qui sont genre l'école, le boulot.
En gros, ils veulent faire rapport de force pour mieux apprendre, ce qui est complètement ridicule en vrai. C'est ça alors le truc.
Ouais, et l'éducatif, c'est surtout plus de contrôle social, quoi. Enfin, en fait, les éduques, quand ils sont pensés à ce moment-là, ils sont pensés comme une manière de ficher des petits, de les mater, de créer soi-disant des rapports de confiance, mais en fait, pour faire quitter à la personne ses envies d'essayer de grailler autrement, de vivre autrement que ce qui est proposé, quoi. Et donc ça c'est le cadre en fait sur lequel on était depuis 45, sauf que depuis 45, depuis 20 ou 30 ans, il y a un discours de plus en plus qui dit « Ouais, mais les mineurs, ils sont utilisés par des plus grands parce qu'on sait qu'ils vont être moins condamnés. » Et du coup, depuis 30 ans, il y a de plus en plus de lois qui vont réprimer de plus en plus durement ce qu'ils qualifient de délit, pour pouvoir dire, en fait, sinon on est laxiste, sinon les types, ils sont utilisés par des réseaux, etc., etc., quoi. Et en fait, au nom de cet argument de merde, quoi, Ils s'en servent pour allonger les peines pour les typeux, pour réduire l'âge pénal et augmenter le nombre de structures d'enfermement. Quand Macron il a été élu il y a quelques années, en 2017, il y a dans son programme l'idée de rajouter 22 CEF. Ou alors juste après, en tout cas, ils annoncent ça, quoi. Donc c'est les centres éducatifs fermés, on va en revenir un peu après. Et donc, c'est des lieux d'enfermement supplémentaires. En fait, dès le début, dans la suite de ce qui est, enfin, des nouvelles prisons qu'ils ont annoncées ces dernières années, il y a l'idée de pouvoir enfermer plus de mineurs, un peu plus partout, un peu plus sur tout le territoire, et donc de mieux contrôler les types, quoi.
C'est ça. Et donc, ils parlent de plus d'éducatifs, mais on voit surtout dans leur texte la répression. Et l'éducatif, c'est très bref. Enfin, il y a juste le mot éducatif. On ne sait pas trop ce que ça veut dire pour eux. De la même façon, ils parlent des victimes, mais ils en parlent très, très peu. Et c'est surtout de la répression. Et je ne sais pas si on peut parler un petit peu soit de... Enfin, l'envolée, on avait déjà fait des articles en 2006-2007, enfin, dans le journal, qui parlaient longuement des CEF, de ce que ça représentait, de ce que vivaient les jeunes. Et je ne sais pas si on peut l'aborder un petit peu.
Alors, il faut savoir qu'en France, on a tendance à oublier. Alors, il y a toutes ces structures, tous ces murs, toutes ces prisons qui sont construits pour mieux détruire, en vrai. Mais on a tendance souvent à oublier les plus jeunes qui sont, eux aussi, enfermés dans ces structures où règne en maître l'omerta. Voilà. Et donc, Jules est venu nous voir. C'est un jeune qui a été incarcéré mineur. Qui a été incarcéré majeur aussi. Et donc, il est venu nous parler de comment on vit dans ces prisons mineures, dans ces
CEF. Tu crois que tu peux expliquer un peu du coup ce que c'est les CEF?
Les CEF, c'est les centres éducatifs fermés. C'est un foyer un peu fermé avec des éducateurs, une école dedans et... C'est censé nous apprendre un peu à se remettre dans le droit chemin. Les CER, c'est plus strict où on est obligé de travailler et tout ça. Et après, bah, y a la prison sinon. Et sérieux, entre le CER et la prison, c'est un peu la même chose. Hein. Mais... Sauf qu'on n'est pas en prison, quoi. Et c'est plus dur le CER que la prison. Ils veulent inventer des foyers, mais plus dur que la prison. Quand t'en sors, t'as pas trop envie d'arrêter de faire des bêtises si t'es déjà dedans, quoi.
Ouais, et du coup, le CEF, c'est décision judiciaire.
C'est ça. Ouais.
Parce qu'en gros, là, le truc de la réforme, donc c'est au nom de la simplification, ce qu'ils ont décidé, c'est de dire... donc, il y avait séparation entre le moment de la reconnaissance de la culpabilité, quoi. Et donc, après, il était censé se passer un truc éducatif où on suit le type pour comprendre comment il est. Eux, ils veulent rapprocher ça de la sanction pénale. Donc, en gros, ce qu'ils veulent, c'est que l'efficacité, ça veut dire punir plus. Et c'est ce qu'a dit encore récemment Dupond-Moretti, quoi, là, le ministre. C'est de dire toujours, il faut que les gens ils soient condamnés pour ce qu'ils ont fait, quoi, et le plus rapidement possible. Et donc le CEF, en fait, c'est une porte d'entrée généralement, c'est un des premiers trucs qu'ils vont donner, pour après passer en CER, voire en EPM, quoi, qui sont les établissements pour mineurs dans les prisons.
Et t'as fait le contraire, toi?
Ouais, moi j'ai fait le contraire, ouais, c'est ça. Moi je suis parti en prison d'abord, et pour sortir de prison, la juge m'a dit que je devais aller en CER.
Et... Dans ce qu'ils veulent dire maintenant, c'est qu'ils veulent faciliter tout ça, c'est-à-dire réduire les temps, réduire tout ça. C'est, avant, on pouvait changer de juge. Enfin, il y avait plusieurs juges qui suivaient le dossier. Maintenant, ils veulent, dans leurs idées d'efficacité, d'avoir un seul juge. C'est plein de choses qu'ils veulent mettre en place, mais qui sont très, très variables. À chaque fois qu'on lit leur texte, tout ce qu'ils disent, on va mettre un code là-dessus en disant maintenant, c'est comme ça que ça se passe. En fait, il laisse toujours la possibilité au juge de faire différemment. Comme, par exemple, pour l'âge limite de 13 ans sur la compréhension des faits, ils disent, non, le juge peut aussi dire, le jeune, il comprend très bien avant. Et donc, ils peuvent toujours redécaler les codes qu'ils ont mis en place dans...
Ça veut dire qu'ils vont faire une espèce de dérogation pour faire rentrer des mineurs de 12 ans, par exemple, en prison.
Belloubet disait oui, ça pourrait arriver, mais normalement, non. Les jeunes de moins de 13 ans ne devraient pas aller en prison. Mais ils laissent des sortes de portes que moi, je n'ai pas très, très bien saisies sur ces choses-là. Quoi.
Ouais, et du coup, peut-être que tu crois que tu pourrais nous expliquer un peu, parce que vu que t'es passé en vrai là, on galère un peu, parce que nous, c'est pas un truc dont on parle souvent. Parce qu'en fait, ça sort très rarement la parole des prisonniers de l'intérieur de ces centres-là, quoi. On sait que l'année dernière, il y avait eu des mouvements dans des CEF et des EPM au moment là, de la fermeture de toutes les activités, tous les parloirs dans les tôles. Mais en vrai, il y a hyper rarement des prisonniers qui peuvent prendre la parole de là-bas. Et du coup, nous, c'est pas un truc qu'on maîtrise de ouf, et c'est pour ça qu'on est un peu on les regarde. Mais juste peut-être tu peux nous raconter, vu que t'es passé après en maison d'arrêt, raconter un peu ce que c'est pour toi la différence entre la maison d'arrêt et le quartier pour mineurs ou le CVR, pour qu'on reparte de là.
Bah, maison d'arrêt, en vrai, t'es livré à toi tout seul. C'est la prison. À part que t'es obligé d'aller à l'école, c'est la même prison pour les majeurs et les mineurs. Le PM, après, l'établissement pour mineurs, c'est pas pareil, c'est vraiment plus strict. Certes, on a plus d'activités, mais on dirait qu'on est des animaux. On mange à des heures strictes. On fait tout ce qu'eux nous disent, en fait. On n'a plus le minimum de liberté qu'on peut avoir, on l'a plus. En maison d'arrêt, on l'a quand même si on est enfermé, certes, dans notre cellule. Mais on peut penser par nous-mêmes, on peut manger quand on veut, on peut se faire à manger, tout ça. En EPM, il n'y a pas tout ça. T'es obligé de manger la gamelle et c'est tout, quoi. Les seules cantines, c'est bonbons, gâteaux et des gels douche.
En vrai, quand tu dis que c'est comme un animal, c'est parce qu'on vous dresse, en vrai.
Ouais, voilà, c'est ça. Ils essayent de nous dresser. Ils essayent de nous dresser, mais c'est pas trop la bonne solution. Des fois, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Du doux, en fait. Et moi, du coup, j'ai fait ça. J'ai fait la maison d'arrêt mineur, le PM. Et j'ai fait le CER et j'ai fait le CEF. Et le mieux, où vraiment ça nous éduquait un peu, c'était quand même le CEF. Et c'est une meilleure solution que la prison. Et moi, ils disent que normalement, c'est l'inverse, c'est les foyers avant l'enfermement. Non, j'ai fait l'inverse. Et j'ai préféré quand même où c'était mieux. C'était quand même le CEF.
Bah forcément, là où tu as le plus de marge, c'est de toute façon là où tu peux toujours plus te développer dans la vie. Quoi.
Enfin, ouais, ça, voilà, c'est normal. C'est ça.
Quoi. Comme être dehors, c'est mieux qu'être en CEF. Enfin, la chaîne, elle se poursuit. Quoi. Et peut-être tu peux raconter un peu comment ça se passe à l'intérieur, parce que tu disais que tu peux cantiner que des gâteaux et du gel douche. En vrai, c'est comme dans les centres de rétention. Quoi. Enfin, ça veut dire que t'es obligé. Enfin, ça veut dire que le pouvoir des matons ou des éducs à ce moment-là, il est beaucoup plus vénère.
Ah ouais, c'est eux qui font tout ce que. Tu vas pas à l'école, ils t'enlèvent la télé 24 heures. C'est-à-dire mineur déjà qu'on n'a pas beaucoup de choses. Alors si on n'a pas de télé pendant 24 heures juste parce qu'on n'a pas été à l'école, c'est abusé. Ok, les jeunes, il faut qu'ils aillent à l'école, tout ça. Mais des fois, nous obliger comme ça nous donne encore moins envie de faire les choses bien.
Ouais, puis ça, en vrai, ça montre le rôle de l'école, tu vois, parce que ici, on n'en parle pas assez, mais l'école, ça sert aussi beaucoup à aliéner les typeux. En fait, c'est une manière de cadrer les typeux pour après être à l'heure au boulot, savoir fermer sa gueule quand on te parle mal, parce qu'il y a le pouvoir des adultes sur les typeux. Et par contre, dehors, en fait, ils se gênent pas pour têche des typeux qui, soi-disant, gênent dans un établissement et laisser un typeux de 14 ans, 15 ans galérer pendant 6 mois sans collège. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand t'es en tôle, là, c'est un outil, l'école, parce que ça permet de continuer l'aliénation et de continuer à t'apprendre à fermer ta gueule,
voilà,
à respecter les
à
adultes.
Nous cadrer, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Avec l'école, ils essayent de nous cadrer pour qu'on reste calme en prison.
Et du coup, c'est en vrai, nous, ce qu'on essaye d'expliquer ici, c'est que...
Est-ce que tu as des cours spéciaux qui te disent... Des cours spéciaux qui te disent... par exemple, nous, chez les majeurs, on a eu un cours de vie sociale et professionnelle et on nous avait fait un rond avec des croix où ils disaient, voilà, vous êtes en dehors des croix et vous devez vous intégrer dans le rond, je sais pas si t'as compris ce que je veux dire.
Ouais, voilà, si. Bah,
t'as des cours spéciaux comme ça ?
Ouais, enfin, en gros, ils nous font comprendre qu'on ne fait pas partie de la bonne société et qu'il faut qu'on rentre dans le droit chemin. Et même les cours, sérieux, des fois, t'es à l'école, t'as déjà le brevet. Les seuls cours qu'ils te proposent, c'est le brevet. En gros, ça ne me sert à rien.
Ouais, je connais des gens, ils l'ont passé 3 fois quand même, le brevet.
Ça veut dire que même si c'était plus en 3e, ils vont te reproposer des cours de 3e.
Voilà, c'est ça.
Des barres. Mais du coup, ça montre bien ce que c'est l'école, quoi. Même si là-bas, il y en a qui sont pas contents, qui hochent la tête un peu énervés. Mais en vrai... en vrai, c'est vraiment ça. Enfin, tu vois, le fait de faire passer le brevet, et c'est même la même chose que quand tu racontais les CAP coiffures ou les trucs comme ça qui t'intéressaient absolument pas et qu'on essaye de t'imposer. En fait, c'est la même chose de on te force à apprendre pour fermer ta gueule, et parce que c'est une manière de laver le cerveau, en fait.
Voilà, qu'on te répète la même chose. Cadrer les gens pour qu'ils restent calmes, on va les foutre à l'école. S'ils veulent pas y aller, on va leur enlever la télé une fois ou deux. Après, ça va vite les calmer. Ils vont tous y aller et ils vont rester calmes à l'école.
Ouais, puis c'est vraiment ce que tu disais, enfin, à l'extérieur, genre, devant le juge, on va toujours te demander d'avoir un taf. Et en fait, quand t'es mineur, bah, ton taf, ça sera, il faut que t'ailles à l'école, et ça sera, si tu vas pas à l'école, ça sera vu comme un truc désocialisation, et c'est bien ça, en fait, ils veulent juste que tu sois occupé dans une de leurs cases. Mais en soi, l'école sert exactement la même chose dehors et dedans. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas pas à l'école dehors, ça va être utilisé contre toi pour t'enfermer parce que bah, y a personne pour te cadrer pendant la journée. Et donc à l'intérieur, si tu vas pas à l'école, bah, on va te priver d'un truc et tout.
C'est ce qu'on appelle les garanties de représentation. Et en fait, c'est ce sur quoi se base un juge pour définir si tu es quelqu'un qu'il faut enfermer préventivement, par exemple, ou libérer en attendant un procès, ou pour t'allonger une peine plus lourde et sans aménagement, parce qu'on va juger que tu vas être moins bien tenir ton contrôle judiciaire, par exemple.
Et dans ces centres, le lien avec la famille, par exemple, tu disais tout à l'heure.
Les CER, ça dure 4 mois. Et en 4 mois, on a le droit de téléphoner à notre famille 10 minutes chronométrées le week-end, que le dimanche, et de les voir qu'un week-end pendant les 4 mois. C'est vraiment pire que la prison, en fait.
Donc on te coupe carrément tes liens familiaux avec tes proches, alors que c'est le moment où t'en as le plus, ou c'est alors que c'est le moment où t'en as le plus besoin.
Bah ouais, si ta famille elle est pas là pour être là quand t'es dans un moment comme ça, t'es enfermé, t'es loin d'eux, tout ça.
T'es jeune,
c'est, je sais pas comment tu vas, c'est sûr que tu vas mal le prendre et que c'est pas comme ça que tu vas te réinsérer.
Ouais, et puis. En vrai, quand ça se passe mal à l'intérieur, on l'a vu dans les dernières émissions d'ici, en fait, c'est souvent les familles qui vont mettre la pression sur la prison parce que il y a des matons qui ont des mauvais comportements, parce qu'il y a des coups de pression à l'intérieur, etc. C'est la famille de dehors qui va aller foutre la pression au directeur, qui va appeler le SPIP, etc. Et en fait, si tu prives de tout contact avec la MIFA, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire que toi, tu as encore moins de force quand tu vas essayer de...
Tu peux pas te défendre, en vrai.
Bah c'est ça en fait, en tout cas c'est l'impression qu'on essaye de donner au max à tous les types quoi, à l'intérieur, c'est ça le message qu'on envoie. Et du coup moi je me demandais si à l'intérieur, est-ce qu'il y a des équivalents de mitards dans les centres pour types, en tout cas des zones plus isolées pour contrôler la prison?
Bah ouais, chez les mineurs il y a le mitard. Il est plus court que chez les majeurs, mais il y a le mitard, et c'est la même chose. Hein.
C'est combien ?
C'est 15 jours maximum, mais c'est la même chose.
Avec les mêmes gamelles dans le même plat.
Voilà, les mêmes gamelles, une seule promenade grillagée vraiment de partout, par en haut, tout ça, t'es tout seul en promenade, t'es tout seul en cellule. Dans ta cellule, il y a une cage aussi, enfin, t'es un animal quoi, au mitard.
Et du coup, parce que nous, en fait, ce qu'on essaie de... Enfin, c'est ce qu'on a capté en lisant là, les modifications de la réforme, là. C'est qu'en fait, ils sont en train d'aligner la réforme des mineurs... Enfin, la justice des mineurs sur la justice des majeurs, quoi. Et que du coup, c'est aussi comme ça qu'ils sont en train de penser tout leur lieu d'enfermement, là, et la gestion de ces lieux d'enfermement, tu vois, la place du mitard. Parce qu'en fait, en prison, la place du mitard, c'est une manière de tenir la prison, tu vois, parce que c'est le coup de pression pour tous les prisonniers sur des refus de plein de trucs, quoi. Et du coup, nous, on avait l'impression que c'était un peu ça dans leur esprit. C'était de pénaliser davantage les mineurs et de préparer la voie à ça, quoi. À genre une pénalisation de plus en plus forte, à une gestion des mineurs aussi de plus en plus forte. Parce que ça s'inscrit aussi dans un truc plus large dehors, où là, par exemple, depuis novembre dernier, on a appelé à la dénonciation des petits qui étaient dans les écoles et qui refusaient de faire l'hommage à Samuel Paty, là, une personne qui s'est fait assassiner. C'était pareil après Charlie Hebdo, après des meurtres à Charlie Hebdo, où les types qui refusaient la minute de silence, ils étaient dénoncés. Il y en a qui sont partis en détention provisoire, il y en a qui ont été dénoncés au renseignement, il y a eu des perquises, etc. etc. Et en fait, c'est la logique du contrôle des mineurs. Parce que, en fait, socialement, ça se tend dehors. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de chômage, il y a de moins en moins de manières de gameler légalement, quoi. Enfin, donc, la situation, elle est quand même de plus en plus tendue dehors. Et ben, ils sont en train de renforcer leur contrôle et de faire de plus en plus un truc de lien entre l'école jusqu'à la tôle, quoi. Et tous les services sociaux qui accompagnent les types, parce qu'en fait, quand tu es dans un quartier, tu as l'école, tu as les éduques, tu as la maison de quartier. En fait, tu as tout un tas d'adultes qui sont là pour... au fond d'eux qui sont là pour aider les types certainement, mais en fait qui du point de vue de l'État servent beaucoup à contrôler, à ficher et à essayer de segmenter les comportements. Il y a juste un truc là sur les éduques de rue, il y a un fichier qui est en train d'être proposé par l'État où il y a un appel à ce que les éduques de rue ils fichent les petits sur leur santé mentale, sur est-ce qu'ils sont réinsérables ou pas, est-ce qu'ils sont cadrables. Et c'est un fichier qui est en train d'être testé dans certaines municipalités, comme à Toulouse, etc. Mais en fait, c'est
n'importe quoi, en vrai. Bah, parce qu'un éduc qui va se prendre la tête avec quelqu'un, il va le ficher, il va dire « Ouais, bah, c'est quelqu'un de bizarre, mettez-le en prison. »
C'est exactement ça. En fait, tu vois, c'est des fiches supplémentaires. C'est comme les trucs de l'école, quoi, tu vois. Quand il y a un petit peu qui se fait péter et qui vont demander à l'école le comportement de l'élève, en fait, c'est hyper à charge que va décider la principale de raconter ou pas, quoi.
Ouais, non, mais ça, moi, j'ai l'impression, un des trucs, c'est souvent, on vend, comme vous disiez, depuis 45, là, on vend de l'éducatif en disant les mineurs ne devraient pas aller en prison. Et donc, en fait, tant que t'es mineur, on va essayer de te ramener dans le... comme tu disais, là, dans soi-disant le droit chemin. Et donc, on va t'offrir des mesures éducatives qui vont te permettre d'éviter la prison. En fait, on sait très bien, en fait, tu l'as très bien dit, c'est pas des... enfin, ces mesures éducatives, en fait, c'est juste des trucs d'enfermement et qui te préparent à la prison. Et on sait très bien qu'après, ces trucs-là, c'est des trucs à charge, en fait. Avoir été pris en charge en tant que mineur, c'est un truc qui va, en fait, alourdir ton casier au moment où tu vas arriver devant le juge. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais. Enfin, quand tu décris, on voit bien, il n'y a quasiment pas de différence, en fait, entre ces différents trucs. C'est déjà la prison pour mineurs. Et en fait, on fait genre. On va prendre en charge les mineurs pour leur éviter la prison. Et en fait, c'est ce qu'on disait déjà à l'envolée il y a 15 ans. On fiche les mineurs le plus tôt possible. Et on les désigne comme délinquants. Ce qu'ils disaient, il y a 15 ans, c'était le mot. Et on disait, dès 6 ans, on peut déceler un délinquant. Et dès 6 ans, on va le prendre en charge. Et en fait, on sait très bien que celui qui a 6 ans va être désigné comme délinquant. Bah, à 16 ans, il sera dans ces trucs-là, quoi.
Et je voulais savoir aussi, tu sais, quand tu étais incarcéré au CJD, les surveillants qui sont vraiment pas formés pour parce que on sait comment ils peuvent mettre la pression, ces surveillants, à l'intérieur déjà quand t'es majeur, les moyens de chantage et tout ça. Bon, bref, on connaît tout ça, mais comment quelles sont les pressions qu'ils peuvent mettre sur les mineurs en prison, ces surveillants on leur donne tout pouvoir à l'intérieur.
Ils ont tous les pouvoirs. Comme tu as dit, ils ont tous les pouvoirs. Ça veut dire qu'ils peuvent venir dans ta cellule, tout retourner du jour au lendemain, s'en foutre et partir comme ça, te prendre, ta télé, ta play ou quoi que ce soit. Enfin, tes minimums que tu as et te punir comme ça. C'est les surveillants, en fait, quand ils deviennent surveillants, on leur apprend à devenir surveillants pour tout le monde. Enfin, surtout pour les majeurs. Ils sont pas... formé pour les mineurs. Et les mineurs, il faudrait y aller plus en douceur, tout ça. Parce que si tu nous fais du rentre-dedans comme ça, tu viens, tu veux faire le rapport de force comme ça, il y en a qui sont jeunes, qui veulent encore prouver des choses, bah, au final, c'est là que ça appartient en cacahuète. C'est pas comme ça qu'il faut faire.
Ouais, non, c'est clairement le contraire, en vrai, dans la manière d'être avec des types. Peut-être que là, on va passer un petit peu de musique parce qu'on vient de faire...
Attends, moi, je voulais juste demander un truc aussi. Amoureux de... De retour. Ouais, c'était comment ça se passe à l'intérieur entre, tu vois, en tôle, il y a les SPIP et tout ça. Là, il y a des éducateurs qui normalement doivent avoir plus d'importance, mais des fois, il y a aussi des matons. Comment ça se passe ce double rôle qu'ils ont comment est-ce que c'est des gens qui sont différents comment ça se passe?
Bah, sérieux, les éducateurs ou les SPIP, on les voit rarement. Mm. Donc, en vrai, bah, ils sont là juste pour s'occuper un peu de ton dossier et tout ça. Mais sinon, ils s'en foutent de ta vie, quoi. Quand t'es mineur, tu t'es au mitard, ils vont venir te voir et arrête un peu tes bêtises, tout ça. C'est pas comme ça que tu vas sortir, mais... Enfin, ils servent pas vraiment à grand-chose, quoi. Mm. Sérieux, toutes les fois où je suis sorti en aménagement ou quoi que ce soit, en prison, c'est parce que c'est moi, j'ai fait les démarches. Mm. C'est pas eux qui vont faire les démarches pour t'aider ou même juste t'aider à faire quelques démarches. Ils le font pas. T'es obligé de tout faire ou ta famille tout faire dehors, sinon ils servent à rien, en vrai.
Et dans les autres établissements que t'as fait, ça se passait comment? Parce qu'il n'y a pas de surveillants, mais...
dans les CER, CEF,
ouais.
Bah, les éducateurs, bah, ils ont le rôle un peu des surveillants.
Ouais, c'est ça.
Ils se prennent pour nos parents, ils croient qu'ils vont nous éduquer, mais c'est pas comme ça. On a un âge où c'est pas vous qui allez nous éduquer. On est conscient de ce qu'on fait et si on a voulu le faire. Donc c'est pas vous qui allez nous éduquer en nous punissant comme... Même nos parents nous ont pas fait ça, quoi. Et vous voulez nous punir de télé, de ceci, de cela, alors que même nos parents nous font pas ça.
Mmh. Ouais, puis c'est quand même hyper... Enfin, c'est vraiment de prendre pour quelqu'un qui a 8 ans, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. On est pris pour des gamins, en fait.
Bon, on te demande d'être adulte, mais on te traite que... Enfin, on t'infantilise, quoi.
Voilà, mais moi, en CER, les éducateurs... Ils avaient 23 ans, 24 ans. Je sais pas ce qu'ils ont à m'apprendre, quoi. Ma mère, elle a le double de leur âge et elle m'apprend plus de choses qu'eux. Et eux, ils criaient sur moi. Enfin, je sais pas, ils se prenaient pour qui, mais
Ça marchait ?
Pas trop.
Ouais, et en fait, juste, on va passer de la musique dans quelques minutes, mais le truc, c'est qu'en fait, engager des jeunes qui sont précaires, etc., ça renforce ce côté-là, où ça va être des gens qui vont jouer les narvalos dans leur taf, quoi. Et c'est toujours la même chose. Après, les gens, on peut plaindre, enfin, les gens peuvent se plaindre sur les conditions dans leur travail, mais le fait que eux, l'État, ils choisissent de faire ça, ça veut dire que la mission qu'ils vont donner aux gens, ça va être d'être violent ou ça va être de foutre des coups de pression. Parce que quand on voit des types pas formés, enfin des gars de 24 ans pas formés, crari éduqués et faire le maton face à des types qui en ont 15, en fait, t'envoies des gens être violents parce que c'est le seul truc que tu peux faire si t'es formé à rien, quoi. Et donc ça, c'est une volonté de l'État de mettre des rapports de force, d'humiliation ou de violence face à des types, tu vois. Enfin, ça, c'est des vrais messages qui sont.
CER, on avait un éducateur, c'était un ancien videur. Donc, rien à voir entre videur et éducateur. Videur, t'es là pour taper les gens, éducateur, t'es là pour nous éduquer, il n'y a pas aucun rapport, quoi.
Ouais, ça veut dire beaucoup, quoi. Parce que tu vois le gars qui l'a embauché, quoi, il voit le CV, puis il fait ah ouais, lui, ça va fonctionner, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, et du coup, on va vous passer un tout petit peu de musique, et après, on va revenir et finir un peu la discussion sur cette réforme, quoi.
Ça, je suis né le 4 décembre. Cerveau, ok, mec, cœur HS. Faut pas me presser, chante le feu, la détente. Comprends que le daron dit que je ressemble à une gâchette. Je viens d'un quartier bresson. Viens pas nous faire de leçons. Trouve-moi posté vers le fond. Chaudard, car les trois quarts de mes frères le sont. Tout se passe comme prévu et ce bois y mèche. On s'amuse avec des trucs tout pour y même. On faisait des 12 contre 12 sur des terrains de foot qui étaient prévus pour 8 mecs. Toujours un ado, ton grand corps te le rappelle. 6 du match à les renforts que t'amènes. T'as fait du mal et tu regrettes à présent. Ma 16 ans t'écoute bien plus t'en mords que ta mère. Hier ressemble à demain, hier ressemble à demain. Hier ressemble à demain, hier ressemble à demain. Hier ressemble à demain, hier ressemble à demain. Limsa, je suis né le 4 décembre, je sais pas quand je vais canner, ça me rend vraiment paro. De plus en plus de keufs sont derrière des barrières, de plus en plus de frères sont derrière des barreaux. Toi, fais ce que t'as à faire, je te calcule pas, t'es comme Harry sans sel. La mère de ma mère, elle est presque parfaite, car elle m'a tout appris, gros sauf à vivre sans elle. Mes yeux, je passerai pas ma vie à les baisser, que je marche dans un quartier ou dans les allées aisées. Capuche, casquette, comme si j'allais jaiser, quand je rangeais ma chambre, c'est que j'avais que j'allais baiser. Les meufs, j'aimais pas les blesser, un donjon affilé, car j'étais v'là le filou. Et quand une beurette me crame avec une autre beurette, je lui fais croire que c'est Mazinkou. Hey, Limsa, je suis né le 4 décembre, puis ma naissance, je côtoie tout un tas de gens sombres. Je viens de le Neda, SB du 936, je sais que tu le sais, connard, je le répète dans chaque chanson. Je veux du caviar, pas du parasite, moi je vais être le boss pour toujours pète le parasite, moi. J'ai regardé 3-4 films de Yakuza, je voulais me faire tatouer un drago parachinois. Quand je me réveille, j'ai le barreau, nos petites teufs elles deviennent paro. Elles veulent quitter la thèse, partir en week-end à Rome comme Etienne Dao. Frérot, nous s'en bat des tours qu'on s'est fait. Je compte plus les drames et les coups qu'on s'est dés. Nos mères versaient des larmes, nous comme des connards, c'est les cours qu'on séchait. Sphère pétassiste du mat, qu'elle sort cruelle. Tes BG, mais t'es détruit quand tu sors du HEP. Brasse électronique pour te localiser. Dis-leur qu'on est des rebeux, pas des tortues de mer. Moi j'y arriverai, je te mens pas un peu. Des frères nous ont quittés. Dans chaque prière, je pense à l'un d'eux. De toute façon, gros sac hier ressemble à main d'eux.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Et on va reprendre sur ces incarcérations pour mineurs.
Ouais. Bah, peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu, parce que donc, toi, tu as été condamné d'abord à faire de la tôle pour mineurs. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour essayer de passer de statut de plus en plus, d'espèces d'aménagement jusqu'à des semis, quoi. Ce que tu racontais, quoi, le parcours EPM, CER, CEF. Racontez c'est quoi la baston pour faire ça, quoi.
Bah, sérieux, c'est vraiment dur. Tu vas voir la juge, tu fais des auditions, ceci, cela. Bah, à aucun moment on commence à te parler de liberté ou quoi que ce soit. T'en parles un peu avec tes éducateurs là-bas en prison ou quoi. Mais c'est vraiment dur. Il faut trouver un projet, tout ça. Et s'il n'y aurait pas eu ma mère et tout pour m'aider dehors à essayer de trouver une solution, ils te laissent pourrir, quoi.
Parce qu'on ne te dit pas les échéances à terme, quoi. On te dit juste ça va durer longtemps.
Bah, ça peut durer jusqu'à tant de temps, mais c'est tout.
Mais ça peut être allongé.
Ouais, voilà. Enfin, ça peut être genre, c'est un mandat de dépôt, 4 mois renouvelable, 3 fois. Et après, tu seras jugé et tu risques tant.
Ouais, et du coup, c'est un peu comme l'équivalent de la préventive en vrai chez les majeurs, quoi. Où ouais, tu peux prendre, si t'es pour de la correctionnelle, tu prends 4 fois 3
voilà,
mois.
Ouais, voilà, allié chez les mineurs aussi, ouais.
Et du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un juge qui te suit et qui regarde ton parcours éducatif, qui te convoque de temps en temps.
Bah, qui te convoque juste pour des auditions. Okay. Il demande quelques fois, enfin, il demande histoire de faire crari, comment ça se passe en prison, tout ça. J'ai vu que vous avez eu des rapports, que vous êtes parti au mitard, tout ça. Mais ils s'en foutent.
Parce que du coup, là, t'es déjà condamné à ce moment-là ou c'est,
Non, t'es en mandat de dépôt encore.
T'es en attente
de jugement, ouais. Okay. En vrai, t'es convoqué juste pour les auditions.
Okay,
la juge, elle s'en fout du reste.
Et du coup, donc c'est avec la MIFA que t'as réussi à être transféré en CER.
Voilà, ouais. C'est ça. Avec l'avocat, tout ça, la famille. Et à faire un dossier, à trouver un CER. Parce que sérieux, les éducateurs...
Parce que c'est à toi de trouver le CER. C'est à toi de trouver la prochaine, ton prochain lieu d'enfermement.
Trouver le CER. Mais je sais pas comment tu peux le trouver, le CER, quand t'es enfermé dedans. Ceux qui n'ont pas trop de famille, ils ont dû rester longtemps dedans. Parce que,
Non, puis en plus, ils demandent, en gros ouais, c'est à toi de trouver ton établissement dans lequel tu vas t'enfermer à nouveau, en fait. Un petit peu moins, avec peut-être un peu plus de liberté. Mais tu vas quand même t'enfermer et loin de chez toi, loin de tes proches, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est quand même c'est un truc de ouf, quoi. Ça veut dire que c'est à toi de faire le taf de l'État qui est de te transférer, qui est de te prendre en charge, quoi. Parce que
déjà, c'est eux qui m'ont mis dedans et en plus, c'est à moi de...
Et du coup, c'est quoi comme projet que tu dois montrer pour passer en CER?
Bah, trouver un bon projet, quoi. Ils te font comprendre que... En fait, la juge, elle va te dire clairement les choses. Elle va te dire quand j'aurai décidé, bah, tu sortiras. Ou sinon, bah, commence à essayer de trouver un projet, un foyer, un CER, un CUF, tout ça. Si ça me plaît, bah, tu feras une demande et on verra. Elle m'en a refusé deux avant que ce soit accepté le CER.
Tu sais pourquoi elle a refusé ?
Elle m'avait dit mon comportement en prison. Mais,
donc rien à voir avec le projet.
Rien à voir avec le projet, je ne comprenais pas, quoi.
Et du coup, ça veut dire qu'après, toi, tu es allé en CER.
Voilà,
et donc, après en CER, tu as dû refaire la même démarche jusqu'au CEF.
Non. En CER, j'ai eu des problèmes de comportement. Parce que comme je vous ai dit, il y avait un éducateur, c'était un ancien videur. Il se prenait pour Hulk. Du coup, bah, je me suis pris la tête avec lui et avec un autre jeune.
Ouais, du coup, c'est pas toi qui as des problèmes de comportement dans l'histoire, c'est lui quand même en vrai.
Ouais, voilà. Il se prenait vraiment pour je sais pas qui, déjà qu'on était privés de musique, de télé, d'un peu tout. Et,
Vous interdisez d'écouter de la musique, par exemple.
Ouais. Bah, en fait, au CUR, on
était...
On n'avait pas le droit, on n'avait rien pour écouter de la musique. Ouais, c'est. Il y avait pas de poste radio, il y avait rien du tout. Même quand on prenait la voiture pour aller sur les chantiers et tout ça, on pouvait pas écouter la musique dans la voiture.
Il vous disait de lire.
Il nous disait de pas faire de bruit et d'attendre d'arriver là-bas, quoi.
Enfin, on rigole, mais c'est pas drôle en vrai.
Et donc tout ça, c'est quand t'es encore en mandat de dépôt.
Ouais, c'est ça.
Et après, tu prends la peine.
Et après, bah, j'ai été au CEF. Ouais. Et après, plus tard, j'ai pris ma peine, ouais.
Ok, et à ce moment-là, il t'envoie en taule pour majeur ?
Non. Là, ça va. Enfin, ma peine, sur cette peine-là, ils m'ont dit que j'avais assez fait, donc voilà. Majeur, ça a été des autres délits que j'ai commis et qui m'ont envoyé.
Parce que tu vois, ces trucs-là de préventive où tu prends juste la peine que t'as fait en préventive, c'est quand même un truc de ouf, parce que ça veut dire qu'en fait, on t'a condamné dès le départ au premier
moment.
Ouais,
voilà, c'est ça, ouais.
Et c'est au moment du jugement, on fait ça y est, je t'ai fait suffisamment galérer. De toute façon, j'allais pas te faire galérer plus d'un an. Donc voilà, bien ouais, c'est bon, tu peux t'y sortir. Mais en fait, ça fait un an que t'as été condamné, tu vois.
Ouais, voilà, bah oui, voilà, exactement. C'est ça, ils savent déjà, en fait, ce qu'ils vont te mettre dès le départ, en fait. Dès que tu pars en mandat de dépôt, ils savent combien de temps tu vas rester. Parce qu'ils savent combien de temps maximum ils veulent te mettre pour ça.
Et parce que c'est un truc, bon, avec les majeurs, c'est pareil, c'est de plus en plus fréquent. Mais chez les mineurs, j'avais l'impression, là, en lisant leur texte, que de plus en plus, même si t'arrives à obtenir une libération, au bout d'un an ou que tu finis ta peine, il y a des suivis qu'ils appellent socio-éducatifs. Qui sont hyper renforcés, qui eux peuvent durer hyper longtemps, quoi. Genre,
ça dure super longtemps, c'est vrai, mais pour rien du tout. En gros, vraiment pour rien, quoi. J'avais un éducateur, j'allais le voir, il servait à rien. J'allais le voir, ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Il me dit, bah, essaye de trouver un travail. Enfin, il m'aidait pas à trouver un travail ou quoi que ce soit.
Ouais, il fait juste un rapport.
Genre, un rapport, ouais, voilà, c'est ça.
Il fait le rôle de la SPIP, en vrai.
Bah, c'est la SPIP pour mineur.
Sauf que lui, il a pas de... Enfin, c'est une question, hein. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il avait un pouvoir de, genre, te réenfermer, dire que c'est la fin d'une conditionnelle?
Non, il a aucun pouvoir.
Ok, donc il est juste là pour te prendre la
tête.
Juste
pour faire des rapports et te prendre la tête un peu, te sermonner... Croire aussi que c'est ta mère, mais...
Ouais, ça, c'est toujours le même truc, quoi. Et bah, je sais pas si t'as... Toi, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur les questions de l'enfermement des mineurs, enfin, ce que toi, t'as vécu?
Ça, moi, je pense que... La prison, dès le début, c'est pas une solution. Il faut vraiment l'esquiver, parce que c'est pas du tout la bonne solution, la prison. Au contraire, mineurs... Des fois, t'es bête, du coup, t'as envie de prouver et t'as encore plus la haine contre l'État. Et en sortant, bah, t'as pas du tout envie de t'arrêter. T'as pas envie de devenir un mouton comme tout le monde pour 1200 euros. Et du coup, bah.
T'as fait de la prison à quel âge?
À 15 ans.
T'as quel âge?
J'ai 24.
Et depuis, t'as fait combien d'années de prison?
J'en ai fait 5, presque 6.
Et t'as peur de la prison?
Là, maintenant, bah oui, j'en ai marre. J'en ai trop fait.
Oui, mais c'est pas de la peur.
C'est pas de la peur, c'est surtout...
De
l'assitude. Ouais, voilà.
Ok.
Bah, je sais pas, peut-être qu'on pourra revenir si toi, t'as d'autres trucs, à d'autres moments qui te reviennent. Moi, j'avais une question. Est-ce que, parce que du coup, t'as fait un an dans 3 ou 4 structures différentes là, d'enfermement pour mineurs. Et je me demandais si t'avais vu un peu des mouvements collectifs, tu vois, des espèces de solidarité entre prisonniers, parce que c'est des trucs qu'on essaye de souvent relayer quand même, des manières de faire voilà, à l'intérieur pour être solidaires les uns des autres. Je sais pas si t'as entendu parler de trucs.
Sérieux, une fois, mais enfin, c'est pas les mouvements comme chez les majeurs. Chez les mineurs, on a tellement la pression, tout ça, que c'est pas pareil. On a peur d'aller aussi loin que les majeurs. Des fois, on bloquait en promenade ou on ramassait des petits cailloux en promenade. En remontant, on les mettait dans les serrures pour pas qu'ils puissent ouvrir les portes. Enfin, que des petits trucs comme ça, mais ça n'allait jamais être aussi long que chez les majeurs.
Yes. Ouais, bah après, c'est déjà chiant, mais...
C'est déjà des bons mouvements, ouais. Enfin, ouais.
C'est déjà important. Enfin, en vrai, c'est par ces mouvements collectifs-là qu'il y a quand même, que tu montres à ces gens-là que tu n'es pas d'accord avec eux. Et moi, je me demandais si quand tu fais, quand il y a un blocage de promenade chez les mineurs, c'est quel type de personnes qu'ils envoient? Je sais pas si t'as fait
c'est,
ça.
C'est les iris directement, hein. Ils se prennent par la tête. Ouais,
c'est donc les c'est la même que pour les majeurs, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et ça se passe de manière aussi violente?
Bah oui, hein. Les iris, ils sont pas là pour parler avec toi. Hein. Ils sont là pour taper quand il n'y a pas de caméra et tu étais dans ta cellule.
Et quand, là, dans ce que tu racontais, là, quand genre les petits cailloux, après derrière, ça se passe comment? C'est quoi la répression qu'ils mettent en place?
Ah bah ils nous disent que le lendemain au lieu d'avoir des promenades on en aura qu'une ou des trucs comme ça. Mais
ouais, parce qu'en fait ils sont pas beaucoup hein, chez les mineurs dans généralement.
Non, ils sont pas beaucoup hein.
À Fleury vous étiez combien par exemple? Ce qui est un des plus grands CJD de France.
À Fleury on était peut-être une soixantaine, même pas.
Ouais, donc, dans les CEF ils disent que c'est normalement c'est maximum 12 places.
Ouais, c'est vrai, dans les CEF on est moins. Moi, quand on y était, ouais, on était au moins une quinzaine. Hein.
C'est ça. Et du coup, en vrai, ça veut dire que ça offre forcément très peu de place pour bouger, quoi. Enfin, plus les centres sont petits, plus les tôles elles sont petites, plus c'est dur de résister face aux matons, parce que, enfin, c'est normal, quoi. Moins t'es nombreux, nombreuses, plus c'est galère, quoi.
Ouais, bah ouais, c'est vrai. Après, ouais, CEF, t'avais vraiment tout dedans, en fait. Ils te faisaient l'école, tu sortais même pas du bâtiment, que t'avais tout dans le bâtiment. Tu faisais du sport dans le bâtiment, l'école dans le bâtiment, tout ça.
Donc il y avait les profs qui venaient dans le CVF, tout le monde venait, quoi.
Voilà, tout le monde venait, ouais.
Et ça existe, les transferts disciplinaires
Ah oui, bah oui, bien sûr. Pour un rien, des fois, surtout chez les mineurs, transfert disciplinaire directement. Ils t'envoient à l'autre bout de la France pour te punir. Mmh. Ils savent que ta famille, elle va galérer à venir te voir, tout ça. Du coup, ils savent que c'est la meilleure des punitions qu'ils ont, c'est le transfert disciplinaire. Que ce soit chez les majeurs ou chez les mineurs. Chez les majeurs, j'ai vu des gens pour un rien. Pour un petit blocage, pour une insulte à un surveillant, parce que le surveillant, il lui avait mal parlé de base. Le mec, il finit transféré à Rouen, alors qu'il était à Fresnes. C'est un mec du 9-4. Tu comprends pas, qu'est-ce qu'il fait là-bas, quoi.
Mais c'est d'autant plus fou, enfin, parce que à chaque fois, ils donnent l'excuse de dire vas-y, on va co-créer un truc avec la famille et tout ça pour le côté éducatif, tu vois, pour. Voilà. Et en même temps, en fait, quand il faut faire de la répression, ils font de la répression et la question, elle se pose absolument plus, quoi.
Bah ouais, non, elle se pose pas du tout. Ça, c'est juste. C'est dans leur texte qu'ils écrivent ça, mais en vrai, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit calme à l'intérieur. Si tu fous un peu trop la merde ou que. Pour eux, tu fous de la merde, même si c'est pas toi, et que c'est un surveillant, bah, ils vont te transférer.
En plus, généralement, c'est rarement les... En vrai, c'est rarement les prisonniers qui commencent, en vrai. Ouais. Non, mais sans déconner, c'est pas...
Bah, on n'a pas envie d'aller au mitard, bêtement, donc...
On n'a pas envie d'aller au mitard, puis on n'a pas envie de leur parler, en vrai. C'est eux, quand ils ouvrent ta cellule, déjà, tu dis, qu'est-ce qui va se passer quand il va ouvrir la porte, lui ? Déjà, qu'est-ce qu'il va me reprocher encore ? Qu'est-ce qu'il va vouloir ? Déjà, pourquoi il ouvre la porte ? Demandez, mais ouvre-moi la porte pour aller au sport, ouvre-moi la porte pour aller, aller travailler, ouvre-moi la porte pour aller au parloir. Mais ouvre pas la porte pour rien, quoi. Avec tes, tes contrôles cellules, tes contrôles
bah ouais, fenêtres,
tes
pour
contrôles
rien,
toilettes.
T'es ceci, cela, pour un rien. Dès qu'ils ouvrent ta porte, à tout moment, ça peut partir en couille, parce c'est que ça. Tu sais pas, il est mal luné, il aime pas ta tête, il y a deux jours, tu l'as mal regardé dans les couloirs ou quoi, du coup, bah...
Et ben, sauf si t'as autre chose à dire, peut-être qu'on peut juste lister vite fait ce que ça veut dire concrètement. Alors, ça parlera peut-être plus aux gens qui connaissent la loi ou qui actuellement sont sur des procédures pour des mineurs, quoi. Mais en gros, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ils vont rapprocher le moment où ils vont juger et le moment où il y aura la peine, quoi. Ça va être réduit à 6-9 mois. Donc en fait, ça veut dire que les gens ils vont plus facilement béton pour ces délits-là jugés par les mineurs. Il y a le truc que tu disais tout à l'heure, Arthur, c'est-à-dire qu'il y aura un même juge, un même avocat, et donc c'est plus difficile à disquêter parce que...
Un même juge, un même avocat, pourquoi là ? J'ai pas suivi, en vrai.
Toute la procédure. C'est-à-dire okay. Entre le moment où on te reconnaît...
T'auras pas le droit de changer d'avocat.
C'est-à-dire du moment de ta garde à vue à ton jugement, ce sera le même avocat, c'est ça ?
Ce sera le même avocat commis d'office si t'as un avocat commis d'office, c'est, okay, ça, oui, c'est ça le truc, hein, toujours.
Normalement, tu vas toujours avoir, si tu le veux, un avocat avec toi et garder le même s'il faut.
Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la justice des mineurs, dans l'ordonnance de 45, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu, pour qu'il y ait une justice des mineurs qui soit spécifique aux mineurs, ils ont créé les juridictions spécifiques. Donc, tribunal pour enfants, juge pour enfants, etc. Et donc, dans tout ça, il y a une procédure spécifique, c'est ce qu'ils appellent la césure. C'est-à-dire qu'en un premier temps, c'est une mise en examen. Donc, on va voir avec le jeune est-ce qu'il est coupable et on va essayer de comprendre d'où il vient, où il en est, etc. Et essayer de voir c'est quoi les problèmes dans le quartier, c'est quoi les problèmes dans la famille et ce genre de trucs. Ce qui, théoriquement, va pour essayer de comprendre donc à des charges, grosso modo. Hein, si tu as une famille qui vont dire la famille dysfonctionne ou elle est négligente ou je sais pas quoi ou elle n'est pas en mesure de bien t'éduquer, donc c'est pour ça que tu fais des conneries. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et après, il y a un deuxième procès qui va venir sur la sanction. Et donc, entre la mise en examen et le jugement qui va établir une sanction, il y a un temps qui est dit temps éducatif, où là, du coup, il y a les éducateurs de la protection judiciaire des mineurs, là, la PJJ, qui vient. C'est l'éducateur dont je vous le parlais, le mec là qui sert pas à grand chose. Et donc là après ils vont voir, en général, avant cette réforme, c'était 9 mois 1 an. Donc sur 9 mois 1 an, les éducs, déjà ils disent que c'est très court parce qu'ils essaient de voir les jeunes, quand ils arrivent à les voir une fois par mois par exemple, déjà c'est déjà pas mal. Quand tu vois un jeune une fois par mois, t'as pas le temps du tout de créer du lien, tu vois, je vous le dis très bien en fait, c'est un mec, il est là, mais en fait... il se passe rien, il y a pas de complicité, il y a pas spécialement de lien de confiance, etc. Donc, il peut pas se passer des choses phénoménales. Donc, l'éducatif, on voit bien que c'est très relatif et que finalement, c'est un joli mot. Et à l'issue de ce temps-là, là, de ces 9 mois à 1 an, ils vont juger et donc mettre une peine, mettre une sanction, mais avec, en prenant en compte, est-ce que le jeune, il aura évolué ou pas entre la mise en examen, la première audition et le jugement. Et s'il y a eu des avancées, etc., donc dans ces cas-là, on les prendra en compte. Si entre-temps, il y a eu 15 gardes à vue et 3 nouvelles affaires, souvent, et puis peut-être même pour les nouvelles, pour les mêmes affaires, hein, si t'es, si t'es là pour stup et qu'entre temps en un an tu t'es refait péter trois fois pour stup, bah, ils vont dire mais en fait vous foutez de notre gueule, vous avez pas compris, et donc ta sanction elle sera plus lourde. Et là, cette réforme, donc là, dans le nouveau code de justice, là, ils veulent raccourcir encore aussi ces temps-là. Et donc, tous les gens qui bossent à la PJJ, par exemple, ils disent, mais en fait, déjà en 9 mois, un an, c'est compliqué. Surtout qu'on leur colle de plus en plus de suivi, puisqu'ils ont de moins en moins de moyens pour travailler. Et même les avocats se plaignent, parce qu'ils disent, ouais, mais en fait, nous, le lien qu'on a avec les jeunes... c'est compliqué, on ne peut pas beaucoup les voir. Comment est-ce qu'on fait pour les défendre si on ne se connaît pas? Enfin voilà, il y a un minimum quand même à faire. Et là, cette histoire de rapidité, d'efficacité, ça va complètement desservir le volet dit éducatif. Voilà, c'est... Et ça, c'est une belle carotte de, cette nouvelle, de ce nouveau code, quoi. Du coup, je ne sais plus où on en était avant que je prenne la parole.
C'était un peu... en fait, tu viens de finir le...
C'est ça, t'as dit...
Okay. Bah, du coup, on va peut-être repasser un tout petit peu de musique avant d'aborder... Mais il y a Serge qui veut parler avant, du coup.
Ouais, je voulais juste rappeler qu'il y avait l'émission sur Carapatage, sur les CEF, qui revient sur l'histoire de tout ça et que ça vaut le coup de l'écouter. C'est un bon complément de ce qu'on vient d'écouter là. Voilà. On passe un petit coup de zik.
Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Barack Obama looking at me. What's up? What's up? I'm hiring hands, inspiring fans. I'm giving out jobs, I'm sketching up plans. Police, they beat me. We storm the same streets, we storm the same block. Won't stop till we free. Think it was possible till we accomplished it. Now we accomplices. Now we out popping shit. I'm getting money. The kids getting money. I'm dropping racks and racks in church on a Sunday. I get it back to back. Go to work on a Monday. White on white tracksuit. Cause you know who run it. We was hungover. Southeast was too sunny. Yo. We out in Joburg. No sleepers, we clubbing. Catch me out in Europe with my black skin. Fighting for freedom, my nigga. Ain't no more asking. Judge ain't never forget him for when it was trapped. No, no. In that pussy wet like a dolphin. Baby, I'm a king, I'm a god, a thug. My verses will live if I die from slugs. That shit is power, man, that shit is love. No, you cannot buy that from no fucking club. I'm a baptized, niggas, let's get baptized. I'm a baptized, niggas, let's get baptized. About to baptize, niggas, let's get baptized. I'm a baptized, niggas, let's get baptized.
She said it's cold inside that water, made her nipples hard. That's that liquor talking, sipping gin and reading a book of Genesis just before in the beginning and shit. Pride, lies, deceit, blah, blah, sinning and shit. Adam and Eve, dumbass, apple eating thumbass. Hit the gas and hit the gas. The sex fifth with the religious sect to grab gifts. How you get money and act as if poverty's past tense? We see bad shit happens, but what happens to bad shit? You need your ass whipped. Friendship missionary, Beulah Hill Baptist. Not fit county doing peyotes from a cactus. Alabaster flows out in Cali with some Calabasas hoes. Celibat, put your ass up on my nose. With a sack of butter, just a sack of bones. Sacrificial Lamborghini, do the dash upon the road. Throw a stone like David, I got that Tom Brady. Man, a Navy gun, case to joint, case in point, the pistol at your neighbor. Look at your neighbor and say, neighbor, stack up all your paper, pray for me. I say a prayer for you, be not forsaken, jump in a lake, let the water run over your face. We baptize people, now they breathtaking. Nigga, wait, I'm about to
baptize niggas, let's get baptized. I'm a baptized niggas, let's get baptized. About to baptize niggas, let's get baptized. I'm a baptized niggas, let's get
Made in his image. Okay. I even work in mysterious ways. See, I've been over my lyrical phase. I'd rather be potent. Burning a bush like Moses. Put on my back like cobras. Eat the forbidden fruit, girl. It's a lot more I can show ya. Kicking that simple shit like yo, to let y'all think it over. Fresh out the fire, been to go. Officer pull you over. Killing a nigga in cold blood. Get him a Christmas bonus. Wasn't until it went digital that you finally start taking notice. Now you wanna be delivered, huh? Guess who pulling up the dinner, huh? Got me cynical like a Tyson punch for $1 million. Is it worth what you really giving up? Got my heart broke by a Taurus when it found a Gemini with a bigger button. Only God can judge, and that's only if he still give a fuck. Water the wine and started to fine, but now it tastes a little bitter, huh? A lot of these guys
shining the light, the jig is up. Everybody know Jesus hang with the hoes, killers and the criminals. Go ahead, tilt your head back, hold your breath for the ritual.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19. Et pendant la pause, on a eu un appel et on a eu surtout une question très, très intelligente et très bonne pour toi, Jules. Donc, comment tu as fait pour tenir en prison pour pas péter un câble, surtout, tu vois, pour pas péter les plombs.
Bah, ma famille, mes amis, un peu comme tout le monde, on a des téléphones, du coup, bah, on essaie de garder la pêche avec ça.
C'est vrai que les amis, c'est des important en dehors, bah ouais. Pas toujours. Non, c'est cool, c'est sympa d'avoir appelé. Tu veux leur dire un mot?
Bah, merci d'avoir appelé. Et force à tous les gens qui sont en prison.
C'est clair.
Ouais. Et là, on va revenir un peu sur d'autres prisons, sur d'autres manières que l'État a d'enfermer, parce que ce qu'on raconte souvent ici, c'est qu'il y a une continuité entre tous ces lieux d'enfermement. Et du coup, il y a en janvier, au centre de rétention de Ménilamlo, donc là, une grosse prison pour sans-papiers qu'il y a dans le 77, il y a de plus en plus de personnes qui sont au bout de leurs 90 jours. Donc l'enfermement des sans-papiers, légalement, c'est censé durer maximum 90 jours en centre de rétention. Il y a de plus en plus de prisonniers qui sont envoyés au bout de 90 jours devant le juge ou devant un proc qui soit signe des CRPC, donc des reconnaissances préalables de culpabilité, où ils prennent des interdictions de territoire, soit prennent des comparutions immédiates, où certains ou certaines prennent de la tôle et vont à Moshokonin, d'autres prennent du sursis avec des interdictions de territoire, et dans tous les cas, après, ils refont le retour vers le centre de rétention. Et donc, en janvier, ça s'accélère, et le 19 janvier, par exemple, il y a une dizaine de personnes qui sont envoyées du centre de rétention au tribunal de Meaux, et tous y reviennent avec une CRPC, donc une reconnaissance préalable de culpabilité négociée avec un proc, où ils prennent des interdictions de territoire. Donc c'est un nouveau motif d'enfermement en centre de rétention. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui repartent pour plus que 90 jours, en fait. Ils sont en train de faire péter le délai légal, c'est ce qu'on racontait ces dernières semaines. Il y a des gens en ce moment dans les centres de rétention qui en fait sont à 140 jours, 150 jours de centre de rétention, donc en fait prennent des peines de prison gratos par l'État. Et en plus, on sait qu'au bout de ces 140 jours, ils peuvent remanger de la prison, quoi. Juste peut-être faut rappeler que si tout ça arrive, c'est parce que les gens ils refusent les tests PCR, le fameux test là pour lequel on nous prend tous la tête dehors et un peu partout. Dans les centres de rétention, évidemment, c'est pas pour vérifier si les gens ils ont le coronavirus pour savoir s'ils sont malades. C'est parce que l'essentiel des pays, comme ils sont en train de le discuter là dehors avec leur passeport vaccinal, ils exigent un test PCR de moins de 48 heures ou de moins de 72 heures pour accepter une expulsion. Donc, une des manières de résister à l'expulsion en ce moment, c'est de refuser les tests PCR. Donc, il y a de plus en plus de prisonniers qui le font. Et en fait, l'État, il se sert d'un délit qui est un peu fourre-tout, qui est le refus de se soumettre à une mesure d'éloignement, où les personnes risquent jusqu'à 3 ans de prison. Donc ça leur permet de faire passer cette CRPC ou un procès, et donc de les réenfermer en CRA. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont en fait enfermés pour refus de test. Donc, voilà. Ça, c'est la situation actuelle. Enfin, c'était la situation en janvier au Ménilamlo. Et donc, le 19 janvier, c'est ce que je racontais, il y a une dizaine de prisonniers qui reviennent au centre. Ils ont déjà fait leurs 90 jours. Ils ont fait de la garde à vue. Ils ont pris cette interdiction de territoire et ils sont replacés au centre de rétention. Et en fait, il y a un mouvement collectif qui s'ensuit où tout le CRA 3, donc, qui est la moitié de la prison pour sans-papiers, commence à se révolter. Et il y a deux bâtiments qui prennent feu. Donc il y a deux bâtiments qui sont totalement inutilisables, ça fait 44 places d'enfermement en moins, donc en fait, ça a eu un vrai impact dans les semaines d'après sur les rafles et l'arrestation de sans-papiers, quoi. Et ça, évidemment, les keufs de la PAF, donc qui sont les matons du CRA, quoi, ceux de la police aux frontières, ils veulent pas laisser passer ça, ils ont besoin de mettre un coup de sup. Et c'est surtout qu'en fait, contrairement à ce qui s'était passé il y a un peu plus d'un an à Vincennes, où il y avait aussi un bâtiment qui avait brûlé, tout d'un coup, il y a les médias qui en parlent. Donc ça, voilà, on comprend jamais c'est quoi les délires des journalistes. Mais voilà, tout d'un coup, en fait, pour le moment, là ça fait du bruit, il y a des articles un peu partout, il y a une dépêche AFP.
Ouais, alors que Vincennes, ils en ont jamais parlé, ouais, c'est ça.
Ouais, et juste donc, pour rappel, Vincennes, c'est le 4 février 2020. Il y a un incendie dans le centre de rétention suite à plusieurs semaines d'humiliation particulièrement vénère par une équipe de keufs qui pousse limite à la torture blanche, quoi, en mettant l'alarme incendie, etc. Il y a un bâtiment qui brûle. Sauf qu'à l'époque, ils peuvent encore expulser. Et donc, ce qui se passe, c'est que la répression, les gens, ils vont la manger avec des expulsions particulièrement violentes, quoi. On va bien leur dire, c'est parce que tu t'es révolté. Et en fait, c'est pas parce qu'ils sont révoltés, c'est parce qu'ils ont été désignés leaders de la révolte qu'ils vont manger une répression particulièrement vénère. Là, en ce moment, ils peuvent plus le faire. Donc, ils peuvent plus mettre un coup de sop après, envoyer les gens au mitard là-bas, et après les expulser violemment et faire tourner le mot que ça a été vénère, quoi. Donc, ils envoient 8 personnes en garde à vue. Ces 8 personnes, avant d'être placées en garde à vue, elles vont rester 5 heures dans le réfectoire, dans l'espèce de cantine du centre de rétention. Parce que comme je disais tout à l'heure, en centre de rétention, c'est pareil que dans les quartiers pour mineurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de cantiner, sauf des gâteaux ou du gel douche. Et sinon, les gens, ils sont obligés d'aller taper la gamelle dans un espèce de self, quoi. Et du coup, ils vont les garder pendant 5 heures là. Et après, ils vont les placer en garde à vue. Donc c'est déjà le premier problème juridique, quoi. C'est-à-dire ils menottent des gens pendant 5 heures dans un self, en fait, et ils ne leur notifient pas une garde à vue. Donc c'est premier bordel, quoi. Et suite à ça, il y a une première comparution immédiate où il y a un report qui est négocié. Et il y a un appel à aller au tribunal de Meaux, donc il y a un peu plus de 2 mois, en soutien à ces 8 prisonniers qui sont accusés donc à la fois d'avoir mis le feu et de violence en réunion avec des bouts de verre, quoi. C'est ça, plus ou moins la désignation juridique, quoi. Ces 8 personnes-là, donc il y a une demande de report qui est faite par les avocats, parce qu'évidemment, en aussi peu de temps, tu peux pas préparer l'affaire, qu'il y a rien qui est fait en dehors de PV de keuf fait à l'arrache, et que les gens, ils risquent quand même des peines, en fait, qui sont assez vénères, quoi. Donc, il y a eu un report. Et ce jour-là, ce que je disais, c'est qu'il y avait un appel qui avait été lancé pour... aller dans le tribunal soutenir les prisonniers, comme ça se fait assez souvent, pour dire que voilà, leur révolte, non seulement elle était légitime, mais qu'il y avait du monde pour la supporter, et pour dire que ça passe par là, la fermeture de ces prisons, quoi. Sauf que c'est le tribunal de Meaux, et qu'ils ont décidé que les audiences n'étaient plus publiques, et donc les gens sont jugés comme ça, voilà, juste avec des juges et des baveux, quoi. Donc il n'y a personne, il n'y a pas les proches qui peuvent rentrer, il n'y a que les gens qui sont convoqués qui peuvent rentrer. Donc c'est sous prétexte du coronavirus.
Ouais, limite, c'est à huis clos, en vrai.
C'est à huis clos. En fait, c'est la fin des débats. Ils appellent ça de la publicité des débats. Voilà. Donc, c'est-à-dire c'est la fin du moment où...
C'est complètement ridicule parce que les tribunaux continuent à fonctionner et quand il y a un jugement, les familles peuvent aller voir...
Mais en fait, ouais, dans les autres tribunaux, c'est évidemment ça. Que ça marche comme ça. À Paris, voilà, à Bobigny, en fait, les gens, on peut continuer à rentrer. Ils ont fait crari des jauges. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans le métro, pour ceux qui étaient dehors il y a 6 mois, ils ont barré une place sur 2, là, ce genre de truc. Mais à Meaux, en fait, personne peut très rang, sauf les gens qui sont convoqués. Donc en fait, ça veut dire que les gens, ils risquent d'être jugés à des 5 ans, des 10 ans, etc., devant son père, quoi. Avec un avocat commis d'office, parce que c'était ça, en fait.
Contre eux, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc ils sont en train de faire leur bail, quoi. Donc il y a eu un report, et il y a des avocats qui sont arrivés pour défendre ces personnes. Un report jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 5 mars. Il y avait à nouveau un appel à se rassembler devant le tribunal. Et donc aujourd'hui, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient devant le tribunal. Pareil pour essayer de rentrer dans la salle, exiger le fait que les débats soient publics et de pouvoir soutenir en fait ces personnes, que ce soit parce que c'est des proches, parce qu'on soutient les révoltes dans ces prisons. Et à nouveau, c'était une quinzaine de keufs qui barrent l'accès et qui empêchent de rentrer dans le tribunal. Juste pour dire que, désolé, ça fait un long monologue, mais juste pour dire qu'en fait, là, depuis 2 mois, il continue d'y avoir des révoltes. Et peut-être un peu plus tard, on pourra lire, mais il y a des témoignages qui sont sortis du Ménil-Amelot cette semaine, parce qu'il y a eu une grève de la faim qui a été lancée au CRA 3, mais cette grève de la faim qui a été suivie par une soixantaine de prisonniers, ce qui, donc, vu qu'il y a des bâtiments qui ont brûlé, c'est quasiment tous les prisonniers de l'aile, c'est en fait la suite de plein de mouvements de protestation qui ont eu lieu depuis, quoi. Et donc ça veut dire qu'en fait à l'intérieur rien n'a changé, les violences policières, la répression pour les refus de test PCR, en fait il continue d'y avoir des gens jugés, qui continuent d'aller en tôle ou qui continuent de retourner en CRA et qui continuent de taper des 140 jours, il continue d'y avoir des allers-retours entre tôle, CRA, tôle, etc. Et les gens ils peuvent se refuser de se voir, d'avoir un parloir parce qu'ils ont refusé un test ou ce genre de conneries, donc c'est l'arbitraire le plus total, quoi. Tu voulais lire le texte maintenant ?
Non. Ouais. Alors, c'est un texte qui est sorti cette semaine. Et ouais, comme tu disais, du coup, au CRA du Ménil, il y a plus d'une cinquantaine de personnes là, qui se sont mis en grève de la faim. Et encore une fois, donc, c'est dans la suite parce que bon, ils ont désigné 8 leaders comme d'hab. Mais bon, on sait très bien que ça se passe pas comme ça et que donc bon, forcément, les gens continuent à être vénères à l'intérieur et même encore plus. Donc, c'était, alors je n'ai plus le jour, mais c'était soit avant-hier, soit hier.
Donc il y avait les personnes en fait ont bloqué la promenade, ont refusé de réintégrer leur chambre. Et donc ils ont fait sortir quelques témoignages. Ça fait 3 semaines que les gens vont pas bien ici, ils sont déprimés, des maladies circulent, une personne est tombée malade. Le corona, ça fait 15 jours qu'il était pas bien et est toujours resté ici. Aujourd'hui ils l'ont emmené on sait pas où. L'autre jour un pote a été frappé par les flics. C'est horrible ici. Si tu payes l'avocat, tu sors. Mais ceux qui peuvent pas payer, ils sortent pas. Crève ici pour 90 jours, plus le renouvellement. Moi, je peux pas payer. Je dois donner l'argent à mon fils. Il doit manger, lui. Bonsoir. Il y a des personnes avec des familles, des enfants et tout, mais le juge dit toujours 30 jours, 30 jours. Le renouvellement de la rétention. La bouffe est de la merde. Rien n'est respecté ici. Des gens ont des papiers italiens, espagnols, mais eux s'en foutent. C'est Guantanamo. C'est pas un centre. En plus, ce serait un centre pour sans-papiers. C'est pas une prison, mais c'est pire qu'une prison ici.
Ouais, ça c'est un truc qui revient beaucoup, hein, le truc de toujours dire, en fait, ici c'est pire que la prison, parce que les matons c'est des keufs, qui portent encore plus facilement plainte, quoi, qui sont plus matossés en vrai, puisque c'est des keufs, donc de la police aux frontières, mais des keufs quand même, et qu'il n'y a pas possibilité de cantiner, que t'es dans des grosses cellules, qu'en fait, enfin voilà, du coup, ils ont encore plus de pouvoir que les matons, parce que aussi c'est des plus petits endroits, quoi. Ménilamno c'est 240 places, 200 côté hommes et 40 côté femmes et familles, et ou enfants. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, moins t'es dans la tôle, plus c'est compliqué de mettre un rapport de force face au maton. D'autant qu'on a oublié de dire, mais en fait, c'est collé à une caserne de CRS aussi, et à l'annexe du tribunal qui prolonge les rétentions, de manière à essayer d'éviter au maximum que les proches y viennent et les révoltes à l'intérieur, quoi. Donc évidemment, quand il y a eu la révolte il y a 2 mois, eh ben, les CRS ils sont intervenus immédiatement, puisqu'ils sont, voilà, ils vivent à côté, quoi.
Donc en prison, c'est les IRIS, mais dans les CRAS, c'est les CRS qui interviennent, c'est
ouais,
ça.
Et c'est là, et voilà, c'est les mêmes fonctionnements, quoi. Enfin, c'est ce que tu racontais tout à l'heure, en fait, quand ils viennent, pour un blocage de promenade, en fait, ils vont éclater tout le monde. Et voilà. Et donc aujourd'hui, il y avait un appel à se rassembler devant le tribunal de Meaux et à rentrer dans le tribunal pour soutenir ces prisonniers. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, il n'y a que les avocats-avocates et les journalistes qui ont pu rentrer. Et donc, en fait, c'est quand même un truc de ouf, parce que c'est soi-disant les journalistes sont là pour la publicité des débats et nous informer, mais c'est un truc de ouf que ce soit... ça montre un peu dans quelle logique ils sont pour fermer tout ce qui est possible, quoi. Et le fait que ce soit pas rendu public, en fait, ça veut dire qu'ils veulent un huis clos, c'est ce que tu disais, et donc c'est une manière pour les juges de pouvoir taper plus facilement, quoi. Il faut aussi préciser que le juge qui juge tout ça, c'est un ancien JLD de Meaux, et donc il y a quelques années faisait les rétentions et était donc une personne qui est responsable de la prolongation qui était responsable des prolongations de rétention, et donc il fait partie des acteurs de système qui est dénoncé là par les prisonniers dont on vient de lire le témoignage. Donc ce que je disais, c'est que les avocats, ils soulevaient trois nullités, et la plus grosse nullité, c'est celle par laquelle je commençais, c'est-à-dire le fait que les personnes, elles étaient enfermées dans une cantine menottée pendant 5 heures sans qu'on leur déclare la garde à vue. Et donc on le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent et qui passeraient par la garde à vue ou qui y sont passés, qui ont une instruction en cours. En fait, on doit te notifier ta garde à vue, soit au bout des 4 heures de vérification d'identité, mais ça ne se pose pas dans un centre de rétention. Donc on doit te notifier ta garde à vue à partir du moment où on t'entrave ta liberté, quoi. C'est pas au moment où les keufs, ils ont décidé de t'emmener au commissariat. En fait, donc c'est la première des nullités. Il y a un problème d'interprète et donc de notification des informations et de la poursuite aux prisonniers. Et le troisième truc, c'est que le procureur, avant même d'avoir parlé aux avocats et aux personnes qu'ils ont accusées là, d'être leader, a décidé qu'il y aurait comparution immédiate. C'est-à-dire qu'il y a une garde à vue, et le gars, en fait, il a déjà décidé qu'il allait en comparution immédiate et qu'il allait les fumer, alors qu'il leur a pas parlé. Ce qui est genre... on sait très bien que tout ça, c'est du spectacle, et qu'en fait, quand tu le vois, il a déjà pris sa décision. Mais théoriquement, ils sont censés maintenir le spectacle, quoi. Et donc, en fait, ils sont censés maintenir le fait que le procureur, il va te voir, il va te parler, et il va dire, bon, bah voilà, vu que soit t'as avoué, soit de toute façon, il a décidé de te poursuivre, tu passes en comparution immédiate. Là, c'est même pas le cas. Et donc, en fait, les avocats, ils soulèvent ces trois nullités-là. Là, en ce moment, c'est en train d'être jugé parce que le juge a encore fait une fois durer de manière à ce que ça se passe après le couvre-feu, de manière à ce que, être sûr que l'audience ne soit pas publique. Et donc, si ça passe, ça veut dire que la garde à vue, les auditions, elles tombent. Et donc, c'est une grosse partie du dossier qui bétonne. Et donc, voilà, on en donnera plus de nouvelles dans l'émission de la semaine prochaine ou dans celle encore d'après, en fonction, quoi. Mais du coup, là, c'est toujours en jugement. les gens, donc ce que je racontais, c'est que les personnes qui étaient dehors, elles ont essayé de gueuler pour amener un peu de solidarité, pour dire aux prisonniers, enfin qui sont à l'intérieur, que voilà, on les oubliait pas. Que voilà, bon, c'est, après c'est galère un mot d'être entendu depuis l'intérieur, quoi, du tribunal. Mais voilà, en tout cas, il y avait cette volonté là. Il y a une quarantaine de personnes qui sont restées plusieurs heures devant le tribunal pour montrer leur solidarité, faire savoir au juge, au RG du coin, etc., qu'en fait, il y avait du monde qui était là et qui ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et à la fin, ça s'est barré en manifestation dans la ville pour raconter un peu aux habitants et habitantes de Meaux ou aux gens qui passent par là ce qui était en train de se passer dans le tribunal et comment l'État était en train de juger ces révoltes, quoi, et ce qu'ils étaient en train d'essayer d'instrumentaliser.
Ouais, parce que c'est un peu ce que tu disais au début, mais en fait, des révoltes dans les CRA, bon, bien sûr, on en parle tout le temps, mais là, quand même, depuis le confinement et surtout depuis juin, il y en a vraiment énormément et des trucs vraiment assez. Beaucoup de personnes qui participent et compagnie. Donc, en fait, le fait que la justice là, fasse ce travail bien, comme tu dis, dès le début, ils ont décidé de taper très fort et d'organiser cette répression, c'est quand même là-dessus, le but, c'est de maintenir le calme dans les CRA. Et encore aussi le lien avec les prisons, c'est que voilà, on peut pas expulser comme ils l'ont fait quand c'était avec Vincennes, donc s'organiser avec la préfecture et forcer des vols et envoyer des gens. Et donc là, ils s'organisent avec les juges et les prisons pour parce que ça me fait penser à l'histoire dont on avait parlé en Italie. Il y a eu des énormes révoltes dans les CPR, donc l'équivalent des CRA en Italie cet été, avec je crois aussi des CPR qui ont brûlé. Et les personnes ont pris des grosses peines de prison. On en avait parlé parce qu'une personne, c'est une de ces personnes désignées leader et enfermée derrière, s'est suicidée. Mais donc il y avait, il me semble, 6 personnes qui étaient compris, des peines de prison très lourdes suite à ça. Et donc ça montre bien comment ces lieux d'enfermement, ils sont pensés les uns avec les autres pour toujours, parce que tu disais, Jules, maintenir l'ordre à l'intérieur, quoi, avec ces transferts disciplinaires ou ces condamnations qui te font passer d'un lieu à l'autre.
Ouais, ils avaient été placés dans des quartiers, en tout cas pour celui dont tu parles, dans des quartiers sécurisés qui est créé à la base, ils avaient créé pour la mafia, blablabla. Après, on sait comment à chaque fois c'est toujours étendu à tout un tas de gens. Et surtout à celles et ceux qui vont se révolter et qui vont pas fermer leur gueule, quoi. Et le truc, c'est que, en fait, là, depuis mars dernier, enfin, là, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire, c'est des gros mouvements de révolte qui ont eu lieu au Ménil-Amelot. Il y a eu des grèves de la faim à Vincennes, à Lyon, ça a bougé, à Oissel aussi. En fait, ces enchaînements-là, c'est un peu comme en 2019, quand on a commencé à beaucoup parler des centres de rétention ici. C'est au moment où il y a la loi asile-immigration qui passe et où ils sont en train de légaliser une pratique qui existe déjà, qui est la rétention à 90 jours. Donc ça faisait déjà un certain temps que, de la même manière que je racontais là tout à l'heure, avant c'était 45 jours maximum la rétention, donc on pouvait enfermer au maximum 45 jours les gens, mais ils les faisaient passer en comparution immédiate, en tôle ou pas, et ils les renvoyaient au centre de rétention. Donc ils avaient déjà trouvé un moyen de contourner ça. Et là, avec ce qui est en train de se passer, ils ont trouvé la même chose. Et en fait, on ne sait pas de quoi c'est fait, mais généralement, quand il y a une expérimentation qui dure dans le temps, et où il y a tous les acteurs de la chaîne, quoi. Il y a la PAF, la préfecture, donc la police aux frontières. Il y a la différente forme de justice, c'est-à-dire le juge des libertés et détention qui prolonge la rétention à chaque fois. Il y a les juges au pénal qui vont envoyer les gens en tôle, ou les procs qui vont proposer ces reconnaissances préalables de culpabilité en mettant uniquement une interdiction de territoire, ce qui veut dire juste un aller-retour vers le centre de rétention. En fait, c'est ça, en fait, la peine qui est donnée, même si ce n'est pas dit explicitement aux gens, quoi. Et la prison. Et en fait, tous ces gens-là travaillent ensemble concrètement et ça forme une chaîne comme ça d'enfermement. On a oublié les hôpitaux psychiatriques parce que des fois, c'est utilisé comme passerelle aussi, soit de la prison vers le CRA, soit du CRA vers la prison. Et pour dire à quel point c'est une chaîne tout ça, c'est qu'en mars dernier, quand ils ont annoncé qu'ils avaient libéré des places dans les prisons, donc ils nous avaient fait tout un pataquès en disant « ouais, il y a 7000 personnes en moins », en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toute une partie de ces gens-là qui ont été transférés en centre de rétention. Parce qu'il y a plein de gens dans les prisons qui n'ont pas les papiers ou dont la préfecture casse le titre de séjour. Pareil, la loi asile immigration d'il y a 2 ans facilite encore plus ça, quoi, et systématise même ce délire-là. Ils vont utiliser les centres de rétention comme soupape, en fait, pour la tôle, où c'est en train de péter un peu partout, et pour annoncer de la libération dehors, parce que c'est trop des crevards et qu'en fait, c'est hors de question qu'ils lâchent la moindre personne s'ils ne sont pas obligés de la lâcher, ils vont les transférer dans les centres de rétention. Et donc, en fait, pour eux, c'est vraiment un jeu, tout ça, quoi. Enfin, c'est un espèce de jeu sur plusieurs bandes où ils ont des calculs du nombre d'enfermés qu'ils ont besoin d'avoir. Et en fonction de la situation, ils vont se servir des différentes tôles, quoi.
Juste parce que les interdictions de territoire dont tu parlais, enfin, c'est pas, c'est les nouveaux trucs qu'ils ont mis justement avec cette loi asile-immigration et ça, c'est des trucs maintenant qui durent 10 ans, enfin qui sont un peu des nouveaux trucs. Et pendant 10 ans, si on te chope en France, en fait, t'es enfermable en centre de rétention. Et en fait, tant que t'es pas sorti, donc il faut que tu prouves que t'es sorti de France, que t'as passé 10 ans en dehors de France.
C'est jusqu'à 10 ans. Les interdictions, elles peuvent être de 3 ans etc. Mais par contre, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas sorti de France, ton interdiction de territoire, elle ne commence pas.
Et donc, tu es enfermable tant que tu restes
là. Voilà. Tant que tu es en France, donc tant qu'ils n'ont pas réussi à t'expulser, qu'il n'y a pas un papier de la douane qui dit c'est bon, la personne a été têche de France, il y a possibilité de te renfermer en centre de rétention, voire de te poursuivre parce que t'as refusé de te soumettre à une mesure d'éloignement, quoi, ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, ouais, en fait, ça, c'est pareil. C'est un truc de ouf parce qu'il y a tout un tas de gens qui, pour le moment, ils peuvent quand même encore avoir des titres de séjour, mais à terme, leur objectif, c'est qu'il n'y ait plus de titres de séjour possibles pour les gens qui aient des interdictions de territoire. Et tous ces gens-là qui se font condamner, en fait, ils les condamnent à être vraiment genre clandestins, quoi. Enfin, en fait, c'est ça leur objectif. C'est-à-dire que les gens, ils n'aient plus aucune porte possible pour gratter des papiers un jour, et que juste, du coup, ça veut dire travailler en acceptant des salaires de merde, ou faire des trucs un peu vénères pour trouver vite des thunes, en fait, enfin, ça te place vite face à une situation. On sait que les personnes qui sont sans papier en France, c'est des gens qui sont utilisés massivement, et c'est pour ça en fait qu'il y a aussi tout cet outil de répression. C'est-à-dire que la même manière que la tôle, la même manière que la tôle pour les mineurs, s'il y a assez de lieux d'enfermement là, c'est pour faire travailler des gens ou les mettre dans un chemin que l'État a décidé, quoi. Et là, clairement, entre les JO, tous leurs projets routiers, autoroutiers, d'aéroports, de machin truc, de conneries, en fait, ils ont besoin d'une main-d'œuvre pour aller construire tout ça. Et ils ont besoin d'une main-d'œuvre qu'ils vont pouvoir gratter et payer vraiment par rush, quoi. Même pour construire leur nouveau CEF, là, dont on parle, leur nouveau centre de rétention et leur nouvelle tôle. En fait, on va pas se mytho, c'est principalement des pauvres et des sans-papiers qui vont les construire, ces tôles. Et donc, ils ont besoin de maintenir ces gens-là sous pression pour pas que ces gens-là grattent des augmentations de salaire ou des papiers. Et ça sert à ça, en fait, le centre de rétention aussi, quoi. À, genre, économiquement, maintenir des salaires à la baisse pour que tout le monde dehors soit dans la merde. Et comme la tôle, elle permet ça, quoi. En fait, de dire aux gens, ferme ta gueule et accepte 1200 euros, sinon tu risques de prendre de la tôle.
Même chez les mineurs, hein, ils les font travailler. Il a travaillé.
Ah, bah oui.
Il travaille dans les bâtiments.
Ouais, bah oui, ils nous font travailler. Il y a l'atelier, il y a plein de trucs en prison. Juste Oxy, déjà, même Oxy. T'es payé 300 euros par mois. Je connais aucun travail légalement dehors où tu peux te prendre 300 euros par mois, quoi. C'est vraiment. Et le pire, c'est l'atelier, je crois. T'es payé 3 centimes, 4 centimes la pièce. T'es obligé d'en faire je sais pas combien pour avoir.
Et ça, en fait, ça, c'est des trucs dont on a parlé plein de fois. En fait, c'est l'exploitation des prisonniers, que ce soit pour des boîtes privées en atelier ou que ce soit pour faire tourner la prison de manière à genre, toujours faire baisser les coûts. Et c'est aussi une manière de tenir les gens à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de taf pour tout le monde, ouais. Parce qu'il n'y a pas de thune qui est distribuée et qu'il y a. Enfin, et que la gamelle, c'est de la merde, etc. Et que du coup, il y a une vraie incitation.
Bah surtout que pour vénérer les gens, en vrai, pour vraiment vénérer les gens, ce qu'ils disent, c'est que c'est qu'un prisonnier vaut 120 euros par jour, je crois, ou 80 euros par jour, un truc comme ça. Mais en vrai, combien rapporte-t-il tous ces enfermés
bah ouais, de la République française ? Parce que sérieux, les ateliers à Fleury, les gens, ils construisent des petites boîtes. C'est pour Chanel, Dior, tout ça. Des boîtes qui sont vendues 1000 fois le prix... qu'elle coûte aux prisonniers, c'est abusé un peu.
Ouais, et c'est ça. Et il y a ça, et il y a le fait que les gens dehors, ils vont accepter des salaires de merde, ils vont pas se révolter. Enfin, qu'il y a tout un tas de trucs que la prison, en tout cas, c'est ça qu'elle tente de faire. Parce qu'au final, les gens essayent quand même de gratter plus, essayent quand même de bouger plus, mais il y a toujours ce truc-là de tenter à la fois d'exploiter les prisonniers dedans et de faire fermer sa gueule dehors, quoi.
Puis juste en replacer une pour les sales boîtes qui font bosser des prisonniers. Il y a Pocheco, qui est la boîte de Cyril Dion, là, le mec super cool que, sur l'environnement et tout ça, qui dit qu'il fait une entreprise sociale et solidaire et qui va exploiter les prisonniers pour ça. Donc voilà, c'est histoire de le replacer. Et puis aussi de dire que quand même, l'administration pénitentiaire, toujours son excuse, c'est de dire, en fait, sinon les entreprises, elles vont partir si on n'exploite pas les gens comme ça. Mais en fait, les Oxy... ils vont pas partir, hein. Enfin, c'est pas possible. Donc, vous pouvez les payer normalement, quoi. Il y a pas de souci. Mais donc, c'est vraiment des excuses bidons. Il y a eu plein de recours juridiques qui ont été faits. Peut-être ça fait partie des trucs positifs qu'avait fait l'EIP. C'est pas passé loin à l'époque pour que le droit du travail soit respecté à l'intérieur de la détention. Puis ça veut dire aussi qu'il y a pas de retraite. Ça veut dire qu'il y a pas d'arrêt maladie. On en avait parlé un coup avec un de tes potes, Sylvia. Enfin. On avait parlé de cette situation pour un de tes potes. Enfin, il n'y a aucun droit, quoi, au-delà de la rémunération qui est hallucinante. Après, derrière, tous les acquis sociaux qui ont été gagnés à travers les luttes, ils ne sont absolument pas respectés à l'intérieur.
Oui, et déjà qu'ils sont bien remis en cause dehors et qu'ils voilà, sont de plus en plus durs à garder, quoi. Et du coup, il y en a quand même tout un tas d'autres des boîtes hein, qui font du bif à l'intérieur. Et enfin, voilà, il y a plein de listes qui existent sur Internet pour les gens qui aimeraient zioter ça. Et je sais pas s'il y a autre chose à rajouter sur le travail le travail à l'intérieur. Mais du coup, voilà, juste pour dire que dans la prochaine émission, on va donner en fait le résultat de l'audition, enfin du procès là, des sets du Ménil, s'il y a, pour dire qu'ils étaient enfermés à Mauchoconin et à Villepinte, et que du coup, pareil, s'il y a des gens qui nous entendent là-bas, ça vaut le coup d'être solidaire en fait de ces gens qui sont tapés à l'intérieur et qui ont, enfin voilà, qui sont vraiment battus, qui sont fait charger par, enfin voilà, par d'autres, où ça a été quand même pas hyper facile avec les keufs et ça a été bien vénère. Ok. Et du coup, voilà, et on continuera à donner des nouvelles. De toute façon, il y a toujours des nouvelles qui seront rendues publiques sur le site abalekra.noblog.s.org. Et j'en profite juste pour raconter vite fait, vu qu'on a 5 minutes, pour raconter vite fait que la semaine dernière, on avait fait un appel pour une cantine au Marbré, donc il y a un squat en Île-de-France, qui était un appel de l'Assemblée publique contre les centres de rétention d'Île-de-France. Pour faire une cantine en soutien à ces 7 personnes qui sont incarcérées là, en ce moment donc pour la révolte, pour toucher un peu de thunes. Ça se passait au Marbré, qui est un des rares squats à maintenir des lieux ouverts et des appels publics dans cette période où l'État essaye de tous nous faire rester chez nous de 8h à 18h et de 18h à 8h, quoi, où il y a vraiment cet appel-là à ce qu'on ferme tous nos gueules et à ce qu'on ne puisse plus s'organiser. Du coup, il y avait une cantine qui était appelée au Marbré à partir de midi. C'est un squat qui est à Montreuil, qui est ouvert depuis plusieurs mois, qui est en procédure d'expulsion. Ça veut dire que théoriquement, les keufs ni le proprio légal n'ont pas le droit en fait, de venir expulser, parce que pour le moment, il y a une procédure judiciaire à suivre. Sauf que à 14h, il y a de plus en plus de keufs qui arrivent devant le squat. Les gens sont obligés de s'enfermer dedans. S'ensuit un moment où il y a beaucoup de keufs qui arrivent. Les gens disent jusqu'à une centaine, quoi. Enfin, de plus en plus de keufs, du 93, du 94, des backeux, pas des backeux. Enfin, voilà. Donc ça, c'est de plus en plus de keufs qui arrivent en disant aux gens, en fait, va falloir sortir. Et en disant aux gens, on va vous poursuivre pour mise en danger de la vie d'autrui, qui en fait est le nouveau truc, là, soi-disant pour les bars ou pour les teufs, qui en fait de dire pour tous les gens qui vont maintenir des espaces ouverts en disant je vous emmerde à ceux qui veulent nous empêcher, quoi. En fait, maintenant, on peut les poursuivre pour mise en danger de la vie d'autrui, où tu risques en fait de prendre quand même pas mal, quoi. Et donc, c'est quand même un bon moyen de faire fermer sa gueule à tout le monde. Et donc, c'est ça le coup de pression. Donc, évidemment, les gens, ils n'ont pas très envie de sortir, quoi. Enfin, assez logiquement. Il y a un appel à soutien dehors, donc il commence à y avoir des gens qui arrivent pour montrer la solidarité avec celles et ceux qui font ça, quoi. Enfin, avec celles et ceux qui sont enfermés par les keufs, quoi, dans ce squat. Et s'ensuit un premier moment de tension où les keufs font n'importe quoi et finalement, ils interpellent quelqu'un pour outrage et rébellion. Ils vont réussir, au bout de 2 heures, ils vont ramener le bélier, ils vont défoncer la porte, ils vont rentrer en mettant coup de pression un peu à tout le monde, et ils vont fouiller et prendre l'identité des 30-40 personnes qui sont dedans. Ils vont choisir 2 personnes, plus ou moins arbitrairement, ils vont les dire « Ok, toi, vous êtes les organisateurs », et ils vont les envoyer en garde à vue. Donc ça, c'est le samedi. Ils vont tèche tout le monde du squat, ils vident le squat, il y a le proprio qui est là comme par hasard, quoi. Et finalement, ils se retrouvent à murer le squat. Donc en fait, ils ont, sous prétexte de virer une fête illégale, qui n'est pas une fête, hein, c'est une cantine à 14h pendant leurs horaires légaux de couvre-feu. Donc en vrai, c'est quand même assez tranquille, il y a 40 personnes à l'intérieur. Eux, ils en profitent pour tèche un squat. Donc mettre à la rue une dizaine de personnes qui
pendant la crise sanitaire.
Pendant la crise sanitaire, en février, alors que la météo, elle va changer cette semaine, blablabla, quoi. Et du coup, il y a ça qui est fait le samedi soir. Ils murent et ils pensent avoir viré tout le monde. Et le lendemain, il y a une manifestation qui a appelé en solidarité avec les 3 personnes qui sont en garde à vue et pour dire non en fait, aux expulsions. Et la manif se balade dans Montreuil, etc., arrive au squat. Là, il y a 2 camtards de CRS qui bloquent l'accès. Il y a des vigiles qui ont été là toute la nuit. Et en fait, il se trouve qu'ils ont oublié des gens à l'intérieur.
Ils
et que
muré.
Du coup, les fenêtres, elles s'ouvrent. Et qu'il y a des gens qui disent « Bah ouais, en fait, on est toujours là. Marbré 2 et Proprio 0, quoi. En fait, le lieu, il est toujours hall. » Et donc, l'expulsion n'a pas vraiment eu lieu. En fait, ils n'ont pas réussi à expulser le squat et le squat est toujours habité. Et donc, beaucoup de force, en fait, à ces gens-là, beaucoup de déter, bien wesh. Et c'est comme ça. Enfin, voilà, faut continuer à mettre de la résistance face à tout ça. On sait qu'en ce moment, il y a de plus en plus de pression pour qu'il y ait de moins en moins d'événements publics et pour que les gens galèrent à s'organiser.
Ouais, parce que ça va quand même si c'est pas complètement nouveau, bien sûr, ce genre d'expulsion. Mais en vrai, il y a une nouvelle loi qui est passé récemment, qui fait qu'on peut expulser maintenant, justement, les procédures protègent encore moins les squatteurs qu'elles le faisaient avant, et maintenant, il me semble, la préfecture peut décider d'une expulsion, en fait, quand elle le veut, à peu près. Et en tout cas, enfin, du coup, là, ces derniers mois, on sait qu'il y a eu une multiplication des expulsions de squats un peu partout en France. Enfin, il y a plein de trucs. Et c'est quand même une période un peu dégueulasse de ce point de vue-là. Enfin, les...
Ouais. Et en tout cas, voilà, on passe beaucoup de force aux copains et aux copines du Marbré. Bien, ouais, j'avoue d'avoir résisté à ça. On imagine bien la tête des keufs quand ils se sont rendus compte qu'il y avait encore du monde dans le bâtiment, quoi.
Un régal.
Et du coup, la mise en danger de la vie d'autrui, elle est peut-être un peu inversée dans cette affaire, puisque du coup, ces gens-là ont quand même muré des gens à l'intérieur d'un bâtiment. Ça dit un peu le niveau de l'équipe, quoi. Et pourtant, il y avait plein d'unités, quoi. Enfin, donc voilà. La mauvaise nouvelle, c'est qu'a priori, ils ont quand même foutu pas mal d'amendes aux gens qu'ils ont contrôlés. Et donc, on le rappelle aussi, en ce moment, c'est de plus en plus un moyen qui est utilisé pour faire fermer sa gueule dehors et pour empêcher qu'on puisse résister au quotidien ou juste vivre tranquillement dehors. Et donc, il y aurait pas mal d'amendes. Il y aura sûrement des appels à solidarité dans les prochaines semaines. Et du coup, on continuera de relayer ça tout tranquillement. Peut-être qu'on... Alors, on va en reparler plus dans l'émission de la semaine prochaine. Alors, juste pour vous expliquer, en fait, là, on fait l'émission en direct. Et juste dans la foulée, on va enregistrer l'émission de la semaine prochaine. Ce qui fait que des fois, on se télescope un petit peu entre les deux. Mais vu qu'il ne reste pas longtemps, je vais pas trop partir loin là-dessus. Mais là, la semaine prochaine, ça fait un an qu'il y a eu des révoltes massives en Italie. Quelques semaines avant les grosses révoltes en France. Ça fait, du coup, c'est le moment où il y a le confinement généralisé en Italie. Et du coup, suppression des parloirs, suppression des activités, suppression des soins à l'intérieur. Et donc, ça part en révolte dans tout un tas de prisons. Il y a notamment la prison de Modène où il y a quasiment... Enfin, il y a plein de... tout le monde qui se met à bouger. Et il y a une répression de dingue. Il y a plusieurs personnes qui se font buter. Il y a, je crois, il y a des dizaines de personnes qui sont mortes, soi-disant tous parce que par overdose. On la connaît, hein, la disquette de l'overdose. On en parlait pour les morts en prison, les morts chez la police. Enfin,
la disquette de l'overdose, c'est la même disquette que les suicides en prison. C'est du même acabit. Hein.
C'est le même délire. C'est en fait la personne, elle a une défaillance cardiaque, comme par hasard, au moment où elle croise les keufs. Enfin, voilà, on connaît ce truc-là. Et du coup, il y a des révoltes qui vont se passer dans tout un tas de prisons à ce moment-là. Et ça va forcer en fait, l'administration pénitentiaire italienne à quand même faire des aménagements, proposer des parloirs Skype, des trucs comme ça. Enfin, en fait, essayer de calmer les gens. Et il va surtout y avoir beaucoup de répression à l'intérieur. Les procès, ils continuent jusqu'à maintenant. Un peu comme la mutinerie, enfin les révoltes à Userche, dont on a parlé aussi ces dernières semaines, où les procès ils continuent jusqu'à maintenant, en fait, de manière. Enfin voilà, la répression d'État, elle n'oublie pas, quoi. L'État, il est sur le long terme. Et donc, cette semaine, il y a des appels pour celles et ceux qui sont pas loin de la frontière ou qui nous écouteraient par là-bas. Il y a des appels à se rassembler, lancés par la famille et des personnes qui sont solidaires des prisonniers, à Gênes, et notamment à Modène, le 8, donc devant la tôle. Et en fait. Je reviendrai peut-être plus dessus dans notre émission, mais juste ça fait un an qu'il y a de plus en plus de rassemblements, malgré le confinement, malgré les couvre-feux, malgré tout, devant les tôles qui sont appelés par les familles là-bas, par des personnes solidaires. Et en fait, les gens, ils lâchent pas l'affaire. Malgré tout ça, en fait, comme en France, les parloirs, ils sont toujours pas revenus de manière correcte. Comme en France, ils peuvent se permettre de fermer un parloir s'ils déclarent que la prison elle est cluster ou je sais pas quoi. Et donc, juste pour dire que c'est une baston qui continue là-bas. Et donc, on essaiera de se faire un peu plus l'écho, peut-être une fois dans une émission, en invitant une copine. Voilà. Et donc là, on va juste peut-être passer un peu au coucou et aux dédicaces.
Moi, je passe un grand bonjour à Martial, à Auria, à tous les prisonniers et prisonnières de France et d'ailleurs. Tu veux passer un message ?
Ouais, je sais pas, à ma mère, à mes potes et à tous les prisonniers de France. Hein.
J'embrasse ta mère aussi, d'ailleurs. Yes. J'embrasse tous tes potos qui ont téléphoné aussi. Parce que franchement, c'est drôle.
On envoie beaucoup de force à l'infâme, à Fabrice. Ouais. À Mehdi, si tu nous entends, on pense toujours à toi. Beaucoup de force là aux 8 qui sont au tribunal. On espère que vous serez libérés. En tout cas, on espère que on donnera des nouvelles de vous. Beaucoup de force à tous les prisonniers et leurs proches.
Ouais, moi je voulais passer un petit coucou à Noël qui vient d'être transféré et ça le fait vraiment chier. C'était plein de force. Je sais que tu peux plus nous entendre de là-bas, mais j'espère quand même que ça t'arrivera. Bon courage à toi.
Ouais, et donc pour rappel, juste pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris, l'envolée-FPP. Et pour nous appeler pendant toute la semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Je répète, 07 52 07, non, moi j'ai perdu le numéro.
Voilà.
07 52 40 22 48. Voilà, désolé pour l'émission où on bug un peu, tout le monde me regarde souvent avec des yeux un peu vides, mais en tout cas, on est allé, on est déter.
À la semaine prochaine, salut à tous et à tous. Et il n'y a pas d'arrangement, qu'est-ce qu'il a le Serge ? Il n'y a pas d'arrangement.
Ouais, il met des coups de cèpe depuis la technique aujourd'hui. Hein.
Casa Mecale, Casa Blanca y Bali. Baby Charlie dieron Frank en el Mali. Casa Blanca y Bali. Y Bali, Casa Blanca y Bali. Cali, Casa Blanca y Bali. Baby, Charlie, dieron fake en Mali. Casa Blanca y Bali. Y Bali, Casa Blanca y Bali.